T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà!
Salut à tous les kiffeurs. Alors, c'est parti pour l'épisode 1 du podcast Kifim. Le podcast associé au site kifim.fr. Le site de toutes les cultures, livres, ciné, séries BD et jeux de société sur lesquels tous les animateurs et les invités autour de la table ce soir partagent leurs recommandations. C'est ouvert à tous, donc rejoignez-nous. Et donc aujourd'hui avec moi, Pedro. Salut Pedro.
Salut.
Tu te présentes.
Pedro, informaticien et grand fan de séries.
Ok. À ma gauche, Juke. Salut Julien. Présente.
Salut, donc Julien ou Juke du coup sur le site. Moi je suis plutôt fan de SF et de pas mal de films et de séries du coup.
Et on te retrouve donc sous le pseudonyme Juke sur Kifim.
Exactement.
Monsieur Lours qui est ce soir notre invité. Salut Guillaume, est-ce que tu peux te présenter?
Salut, je m'appelle Guillaume, effectivement. Monsieur Lours sur Kifim, moi je suis un nouveau kiffeur. Je viens de débarquer et je serai un peu la caution noob de ce podcast. Voilà.
On est content de te recevoir, c'est super sympa. Puis on parlera peut-être un peu de ton actu aussi si jamais
Avec plaisir. Bon.
À ma droite, Chenin, Christophe, salut Christophe.
Salut.
Tu te présentes un peu?
Chenin sur Kifim. Christophe dans la vraie vie et consultant, fan de séries, fan de films, de cinéma, fan de musique,
fan des années 90,
fan de jeux. voilà. Et moi je parle de jeux parce qu'il fallait quelqu'un qui le fasse.
Ok. Et enfin, Guillaume, alias Atlza.
Atlza, ouais.
Atlza.
Sans qui nous ne serions pas là.
Sur Kifim, voilà, un des co-créateurs du site qui nous accueille d'ailleurs chez lui ce soir. Donc, on va commencer tout de suite.
Allez.
Avec Pedro.
Yes.
Et puis, Pedro pour son premier exercice et qui va nous faire un petit peu le tour des news.
C'est ça. Alors, les news, j'ai fait un petit récapitulatif des news qui sont sorties récemment et qu'on a pu partager notamment sur le Facebook et le Twitter de Kifim, et aussi quelques petites surprises qui sont sorties aujourd'hui ou hier. Alors, je commence par un petit récap très rapide du Festival de Cannes. Forcément, j'étais obligé de passer par là. Les trois grands prix principaux. Donc, le grand prix du Festival de Cannes a couronné Spike Lee, absent du festival depuis 27 ans. Quand même, pour son film Black Kansman, c'est dur à dire. Film assez impressionnant, pamphlet qui dénonce le racisme, l'extrême droite et le gouvernement de Donald Trump.
Ok.
Ça s'annonce assez costaud et un peu violent. On a partagé notamment l'affiche sur Twitter. Vous allez voir, c'est assez punchy.
Cool.
La Palme d'Or a été remise au réalisateur Hirokazu Koreeda, c'est un peu dur à dire, réalisateur japonais, pour son film Une affaire de famille. Alors là, on est sur du cinéma un peu plus traditionnel japonais. Je n'ai pas vu grand-chose du film, malheureusement. Mais a priori, c'est sympa.
Tu voudras qu'on te demande une accrède pour Cannes l'année prochaine?
Ouais, c'est ça, un peu. Ça serait pas mal.
On n'a pas besoin de la demander. Elle va tomber toute seule.
Troisième, c'est Jean-Luc Godard qui a été récompensé par une palme d'or spéciale pour son dernier film, mais surtout sa capacité à réinventer continuellement le cinéma à travers ses films. C'était plutôt un hommage au réalisateur et à la personne plutôt que pour son dernier film. Voilà. Autre info.
Salut Jean-Luc.
Voilà.
Tu seras peut-être invité
peut-être.
Ça serait sympa.
Invitation est lancée.
Dernière news côté Amazon, hein, qui accélère un peu et va préparer une série biographique qui va plaire aux fans de football. Une série biographique sur Diego Maradona. Mais alors, pas que axée sur le football, ce sera une docu-série sur le côté vénération du monsieur, mais aussi sur un peu toutes les magouilles dans lesquelles il a trempé. Donc ça peut être assez intéressant. S'ils y vont franco, il peut y avoir des choses très intéressantes.
Il est parti pris là-dedans, lui, ou il...
Du tout.
Du tout, donc
du
ils
tout.
Peuvent un peu le dénoncer. Enfin,
exactement.
Pas Benny Louis,
c'est ça qui est intéressant.
Est-ce qu'il va chanter Like a Virgin?
Je ne sais pas.
Maradona. Ça y est.
C'est la chevelure peut-être qui t'a trompé.
Alors j'ai une petite question pour vous, pour la news suivante. Est-ce que vous savez qui est Alfred Pennyworth?
Oui, bien sûr, c'est le majordome de Batman.
Exactement, bien joué, on voit la culture. En fait, le fameux majordome, qu'on voit de temps en temps, un peu partout, on ne sait pas trop dans sa vie, il va avoir le droit à sa propre série, après la fin de Gotham. Donc Gotham a été renouvelé pour une dernière saison. Et donc en fait, il va y avoir le créateur de Gotham va lancer une série autour du majordome, et notamment sur sa jeunesse dans les forces spéciales britanniques, dans les années 60.
C'est vachement plus en vue que Gotham.
À Gotham, c'était un peu fourre-tout.
Mais le personnage, pour le mérite, la façon dont ils l'ont traité dans Gotham, là, il a vraiment pris du galon. Quoi.
Ouais. Moi, j'ai abandonné Gotham là, depuis quelques saisons. Enfin, je sais pas combien d'émissions sont dans lui.
Cinquième,
j'ai dû arrêter après.
Enfin, cinquième arrive.
J'ai dû arrêter au milieu de la 3, un truc comme ça, mais rien que l'univers, dans l'univers Batman, je trouve que c'est intéressant d'aller creuser ce.
Personnage. Ce qui est dommage du coup, puisque dans la série Gotham, c'est maintenant que les méchants arrivent. Ouais. C'est maintenant qu'on commence à tous à tirer les grands portraits, les trucs. Ça devient cool quoi.
Ah ouais, mais bon, c'est un peu le bazar sur la Fox en ce moment et je pense qu'ils ont.
Ah ouais, il y a des coupes dans les budgets.
Beaucoup, ouais. Notamment avec l'arrivée de Disney qui a racheté pas mal de choses.
Ils ont sauvé Brooklyn Nine-Nine. Ici, à sauver Brooklyn Nine-Nine.
Alors là, je suis pas revenu, là, si on peut en parler vite fait deux secondes s'il faut, mais je suis pas revenu parce qu'on en a tellement parlé à travers tout l'internet, mais Brooklyn Nine-Nine a été sauvé de la coupure pour une dernière saison, devant le tollé de tout le monde, que ce soit sur Twitter, des stars.
Annulé par la Fox, reprise par NBC.
C'est ça. La seule qui sera sauvée avec Designated Survivor, qui va être sauvée, pas officiellement, mais sauvée par Netflix. Ils ont tellement mis Big dans le contrat que.
The Expanse aussi, j'ai pu croiser une news.
The Expanse va être sauvé.
Je savais même pas que vous
l'avez annulé. Si, elle faisait partie de ceux qui ont coupé.
Sci-Fi qui coupe.
Et c'est Amazon, si je crois, qui.
C'est ça.
Alors que.
Ouais, Amazon qui sauve, ça va un peu avec la montée en puissance d'Amazon. Autre news qui va intéresser les fans d'une vieille série britannique, peut-être la plus grande série britannique, Doctor Who. La BBC et Twitch viennent de passer un partenariat pour diffuser 500 épisodes de Doctor Who classique, mais alors d'une façon un peu originale. Donc c'est des épisodes qui ont été diffusés entre 63 et 89, donc c'est vraiment les vieux, les classiques Doctor Who. Ça commence à partir le 29 mai prochain. Ça sera en continu 24-24, mais en fait, c'est par bloc de 8 épisodes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire 3 fois les 8 mêmes épisodes dans une journée.
D'accord. Hein?
Donc, pour boucler 24 heures, du coup. Pour durer assez longtemps et diffuser 500 épisodes. On peut laisser faire le calcul, je ne l'ai pas fait, mais 500 divisé par 8, ça fait X jours. Mais ça va durer quasiment une bonne deux tiers d'année.
Je suis content que les chaînes commencent à faire des trucs comme ça.
Ouais.
C'est surtout sympa. Une super bonne nouvelle pour Doctor Who et les épisodes classiques qui sont des épisodes un peu mythiques, perdus parfois, aux quatre coins du monde. Et c'est assez cool si effectivement on peut remettre la main dessus dans une qualité pas trop sale.
Bah, du coup, comme c'est Amazon qui est derrière Twitch, je pense qu'il va y avoir un truc assez sympa.
Moi je les avais tous en VHS, mais après j'avais enregistré Interville.
c'est normal, la vachette.
Question de priorité.
Une petite news network. Alors c'est rapide comme ça, mais ça montre un peu le marasme des networks en France, notamment par rapport à Netflix ou Amazon. Canal+ lance une nouvelle offre pour contrer Netflix, une offre Jones à 9,95 par mois, sans engagement, réservée seulement aux moins de 26 ans. Donc, malheureusement, personne autour de cette table. Et l'offre donnera accès à des séries, leur catalogue de films inédits, qui pour le coup est peut-être ce qui est le plus intéressant en France, aussi du sport. Ligue 1, rugby, le basket, t'es formule.
Il est fumé.
Et quel est l'intérêt de l'offre ?
Je comprends pas le fait de restreindre à moins de 26 ans.
Et tu pourrais faire un bouquin pour le sport.
Essayer d'intéresser les. Ouais, essayer de faire venir les Jones chez eux. Tous les ans, Canal+ essaye de sortir une connerie pour essayer d'attirer les jeunes, et tous les ans, ils changent et ça marche pas.
Je dirais que c'est tous les deux ans, parce qu'une année sur deux, c'est TF1.
Non, parce que TF1, ils ont leur public aussi de ménagères et tout, donc je pense que c'est pas forcément la même cible.
C'est un vaste sujet que les networks en France.
C'est clair.
Bon, ils essaient de retarder le fait de couler, quoi, surtout.
C'est ça, ils essaient de sauver un peu comme ils peuvent, mais ça sent mauvais. Une news un peu plus intéressante, Stranger Things, là, un peu plus d'informations sur la saison 3, ce sera un mélange des deux premières saisons. Alors, pas
un épisode sur deux. Ça,
ils recyclent déjà leur propre univers.
Non, l'explication
est un épisode flashback.
L'explication, c'est surtout par rapport à l'ambiance. C'est un mélange des ambiances. C'est-à-dire que la première saison était plutôt sur une ambiance un peu joyeuse au début. C'est-à-dire avec la découverte, la bande de copains, etc. Alors que la deuxième saison était sur une ambiance un peu plus sombre, le combat, etc. La troisième sera un vrai mélange autour d'Eleven là-dessus. Et en fait, ça va être principalement basé sur Eleven et on va la suivre quand elle va essayer de devenir une ado un peu normale.
Ouais, moi j'avais lu ou vu, je sais plus, quelque part, que ça serait. Enfin, ils annonçaient une ambiance, je sens, beaucoup moins dark.
Oui, voilà.
Même je pensais qu'ils pensaient aller plus loin que la première.
Enfin, c'est pour ados, quoi.
C'est AB1, je crois, qui produit.
Je pense qu'ils sont allés assez loin, non, mais ils ont quand même un peu poussé le côté dark dans la seconde saison, qui était très intéressant, à titre personnel. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde.
Ouais, j'espère que le traitement d'Eleven sera un peu meilleur quand même que celui de la saison 2, qui était, je trouvais, un peu expédié, un peu what the fuck, dans son passage urbain, on va dire.
En tout cas, son traitement, il a nettement évolué.
Ah oui, ça...
Elle a négocié, mais comme...
Oui, le passage urbain est un jeu, parfois, il ne sert pas grand-chose, quoi. Effectivement.
La suite des news ?
Yes, trois petites dernières. On parlait de cachet, ça tombe bien, tu me fais une transition parfaite. Les Obama qui signent un contrat, alors là c'est plaqué or, du côté de Netflix, est vraiment costaud. On ne sait pas le montant, mais c'est encore plus que par rapport à leur maison d'édition, parce qu'ils vont aussi créer des bouquins aux États-Unis.
Je crois que c'est Obama,
Obama, de près. Et je pense que t'es Obama trop bas. Comment, puisque c'était déjà 7 millions quelque chose pour les bouquins. Donc on est bien plus haut.
Par contre, ils ont signé que pour produire. Tout le monde s'est emballé, mais les mecs, non, que produire.
En fait, ils ont créé une société qui s'appelle Higher Ground Production et qui est vraiment la société de production qu'ils vont gérer pour Netflix. Et qui va alors par contre produire un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des séries, des émissions de télé-réalité, des documentaires et des films.
Télé-réalité, ça reste globalement dans un même univers.
Oui, mais c'est tout ce qu'on peut produire à la télé, quoi.
Donc, à Christophe me parlait du porno tout
à l'heure. Ah oui. Alors, quoique, qu'à 10 millions, il y a peut-être moyen. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner. À noter que Letterman fait une émission sur Netflix depuis cette année. Obama a été dans l'épisode 1 ou 2. Ça a été un gros carton. Donc l'épisode 1. Donc je pense qu'il y a une véritable audience, même s'ils sont que derrière, ça va m'amener un.
T'as oublié de doubler cette émission.
Oui, mais j'ai plus le nom.
Les guest.
Voilà.
Guest.
Voilà, c'est un peu long à dire. Mon prochain invité est.
Vous le retrouverez écrit en dessous dans la vidéo.
Voilà, exactement. Plus facile.
On passe
sur le code de droite.
Mais pas de vidéo.
Petite news, on retourne chez Amazon sur un des projets les plus. Aguichant du moment, la série sur le Seigneur des Anneaux. On a appris qu'elle serait basée sur la jeunesse d'Aragorn. Donc ils vont se couper un peu d'une partie de l'histoire, mais à titre personnel, je pense que c'était un des personnages qui avait l'univers le plus important, ou du moins le passé.
Bah, il est passe partout en fait. Tu peux aller chez les elfes, tu peux aller chez les nains, exactement. Chez les hobbits, etc.
Mais il est déjà assez vieux dans Seigneur des Anneaux, donc effectivement, il a.
Mais je suis assez d'accord avec la moue de Guillaume, ouais. C'est que c'est pas le personnage le plus intéressant de.
Puis ça dépend, je crois qu'elle a déjà vu jeune ouais. Chez eux, c'est pas pareil.
Gimli, il est jeune quoi.
Il y a du Peter Jackson dedans ou...
Alors il sera, a priori, si je dis pas de bêtises, il sera producteur associé ou. Il filera un coup de main. Il était pas fan au début, a priori, ils lui ont fait un chèque intéressant, ouais, il sera dans le coin.
On aimerait juste qu'il y ait ton nom dans le générique.
C'est un peu ça. Il est pas trop fan, certains acteurs sont pas très fans, mais a priori il y a une grosse partie qui suit le mouvement.
Mais ce sera une série qui sera pas dans l'univers des films, ça sera quand même une série qui développera, enfin, encore à ses propres codes esthétiques, ou ça sera vraiment genre.
A priori, c'est basé vraiment sur l'univers et l'esthétique, que ce soit Tolkien et film, du coup, mais.
Sur
Aragorn. Mais l'idée, c'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment de calquer à l'univers.
Ok, d'accord. Okay. Bon.
Et la petite dernière news de quelque chose qui me fait très plaisir, c'est le retour de Matt Groening, créateur des Simpsons et des Futurama, et qui débarque bien évidemment aux États-Unis du côté de Netflix, avec une petite histoire assez simple. Le speech est très rapide. C'est l'histoire d'une princesse, d'un elfe et d'un démon qui rentrent dans un bar, trois petits points, et voilà ce que ça va donner. À savoir que la princesse est alcoolique. Ça s'annonce un truc super sympa. On a partagé les quatre premières images sur le Twitter de Kifim hier, si je m'abuse. Donc,
At Kifim. Le Twitter de Kifim. At Kifim.
C'est ça, At Kifim. La série sort le 17 août avec les 10 premiers épisodes. 20 ont déjà été produits. Donc il y aura sûrement une saison 2 rapide. On va voir ce que ça va donner, mais quand on connaît le génie de Monsieur Groening.
Alors moi j'ai déjà une remarque là-dessus, c'est que ces premières images, ben c'est juste les Simpsons dans l'espace quoi. C'est...
Enfin, non, ça c'est Futurama.
Non, ça c'est Futurama, il a raison.
Oui, Simpsons, non mais je veux dire le trait des persos.
Ouais, mais il y a des Simpsons, trucs intéressants, quoi. Par exemple, le petit démon est vraiment d'un côté, Glenn pourra en parler un peu mieux que moi là-dessus, mais graphiquement parlant, est vraiment décalé. Il y a des touches assez sympas, il y a un côté très médiéval.
Mais les personnages, c'est le style, c'est le dessin.
Quoi.
Ouais, j'aurais aimé voir évoluer un petit peu.
En tout cas, on va voir ce que ça va donner.
Mais... Il y a un côté un petit peu, je trouve, comme ça, vite fait, ça m'a fait penser aux premières images, la série Donjon de Trondheim et Sfar, dans une espèce de heroic fantasy un peu absurde et marrante.
Donjon de Nalbuck.
Alors non, Donjon, tout simplement. Une série de BD. Mais Donjon de Nalbuck, c'est aussi une série de BD, effectivement, humoristique.
Et voilà pour les news, c'était déjà pas mal.
Ok, merci Pedro. Merci, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. Je crois que je ne me suis pas présenté, hein, donc c'est Glenn, le docteur Madvik sur Kifil qui anime cette soirée. Et on va passer tout de suite à Juke. Jungle Juke ce soir, son costume Jungle Juke parce qu'il est dans la.
Il se bat contre
une plante. Je suis en train de me battre avec une plante verte. Ouais.
Voilà.
Et je perds en plus.
Te décaler. Mets-toi
Julien,
confortable.
Julien, donc Duke, J-U-K-E sur Kifim, va nous parler du dernier film d'Élise Lucet.
Exactement. Patagon Papers de Spielberg. Je vous pitch l'histoire rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais après c'est basé sur un fait réel, donc tout le monde peut aller voir la page Wikipédia pour savoir de quoi ça parle. On est en 1965, un analyste qui s'appelle Ellsberg fournit au gouvernement un rapport sur la guerre du Vietnam, plus exactement à McNamara qui à l'époque était ministre des armées. Et ce rapport montre en fait l'enlisement et la possible défaite des États-Unis au Vietnam. L'histoire, c'est qu'au même moment où ce rapport a été distribué, le gouvernement américain continuait de clamer la victoire prochaine, continuait d'envoyer des troupes au Vietnam, etc. Le New York Times va mettre la main sur ce rapport par Ellsberg, cet analyste qui va leur fournir, et va commencer à faire des gros titres, donc il y aura évidemment un scandale. Il y aura une pression de Nixon sur le Times pour qu'ils arrêtent de publier. Et en fait, c'est le Post, le Washington Post, qui va aussi avoir accès à cette analyse, qui va décider, il va y avoir une guerre interne pour savoir s'ils doivent publier ce rapport à cette époque-là. Et donc, on va suivre le rédacteur-chef du Washington Post, qui est joué par Tom Hanks, qui va négocier, se battre un peu avec sa patronne, qui est incarnée par Meryl Streep, pour savoir s'ils doivent publier ou pas. Là où il y a des bains un peu, c'est que Meryl Streep, en fait, son personnage, dans la réalité et dans le film, était une amie proche de McNamara, et le Washington Post devait rentrer à cette époque-là en bourse, donc les actionnaires, enfin les futurs actionnaires, ne voulaient pas qu'il y ait de scandale, ne voulaient pas que le rapport soit publié sur le Washington Post. Le film, je peux le pitcher jusqu'au bout, parce que de toute façon, c'est une histoire vraie. Le Washington Post, en fait, va finir par publier le rapport. La Cour suprême des États-Unis va autoriser la publication de ce rapport. Et en fait, cet homme-là, Ellsberg, l'analyste au départ qui a fourni le rapport aux journaux, va devenir en fait le premier lanceur d'alerte. Voilà, c'est ça l'histoire. Le jugement que j'en fais de ce film, c'est le même que j'ai eu sur Kifim, que vous pouvez aller voir. C'est un bon film. Les acteurs sont bons. Tom Hanks fait du Tom Hanks, Meryl Streep est toujours aussi bien. Vous êtes captivés, il n'y a plus un mot. Mais c'est du Spielberg. En fait, Spielberg, c'est le meilleur atout de ce film et le pire, parce que c'est du Spielberg. Moi, quand je regarde un Spielberg, je veux quelque chose de plus. Je veux du magique. Je veux quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Voilà, et là,
le extraterrestre qui passait en vélo, ça ne collait pas.
Non, non, pas forcément dans l'histoire, mais dans la réalisation, vraiment. Et là, c'est tout est moyen. C'est bien joué, mais sans plus. Les décors sont bons, mais sans plus. L'intrigue, bon, bah, après, c'est du fait réel, mais il n'y a pas de choses qui t'amènent un peu de suspense, etc. Donc, c'est tout est sans plus.
Ils ont trouvé l'Oasis.
L'Oasis.
Ready Player One.
Et non, et voilà, moi, c'est le problème que j'ai avec ce film, c'est que moi, je suis un grand fan de Spielberg, première époque, je suis un grand fan de E.T., je suis un grand fan de Rencontre du Troisième Type, de Hook, de tous ces films-là de Spielberg, et je trouve que depuis quelques temps, Spielberg, alors, il n'a pas perdu sa main, il a toujours un geste à la caméra, il a toujours quelque chose qui sort, mais c'est moyen.
E.T., Rencontre du Troisième Type, Hook, c'est même plus une première époque maintenant. Hein.
Ah bah si. Si. Ouais.
On va dire que pour une partie de l'audience, à mon avis, c'est carrément la préhistoire. Ah,
moi, c'est mon enfance.
Hein, mais moi aussi, d'accord.
Non, mais t'as plus vieux que ça.
Mais pour toute personne née après 95.
Donc voilà, mon avis.
Tu as pas de note sur Kiffy.
Eh ben, j'ai mis la moyenne en fait. Si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai fait il y a un petit moment, là, mais il me semble que j'ai mis la moyenne, justement parce que c'était bon, sans être mauvais, sans être excellent, sans... Alors, évidemment, Tom Hanks et Meryl Streep sont toujours très bons, mais même eux, Tom Hanks et Meryl Streep, on a l'habitude qu'ils nous sortent quelque chose dans leur jeu d'acteur. Là, ils jouent bien, mais il n'y a rien qui crève l'écran, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un peu partie d'une vague de films où, justement, on met en scène les lanceurs d'alerte. Enfin, il y a eu un documentaire et un film... sur Snowden, c'est une manière pour...
J'ai mis un chouïa au-dessus de la moyenne.
C'est sûr, c'est moyen, effectivement. Mais c'est dans l'air du temps. C'est, du coup, c'est marrant de voir Spielberg qui s'empare d'un sujet qui est très actuel, mais qui... Ouais. Il va lui donner sa patine historique, ouais. Comme il aime bien faire, avec une reconstitution qui, j'imagine, est
tu
au
sens, poil. En fait, dans le film, il a voulu... En fait, le sujet du film, c'est les lanceurs d'alerte. Même si Ellsberg, l'analyste... On le voit quasiment jamais dans le film, on le voit un peu au début, quelques passages dans le film. L'action est vraiment centrée sur le rédacteur et sur Meryl Streep, la patronne. Mais tu sens qu'il a voulu parler des lanceurs d'alerte parce que le film se termine sur l'effraction Watergate, qui est arrivée juste après ce scandale des Pentagon Papers. Quoi. Tu sens vraiment que le sujet derrière, sous-jacent, c'est vraiment les lanceurs d'alerte. Mais même ça, c'est pas vraiment amené, quoi. On suit... J'en ai l'impression de regarder un documentaire, une docu-fiction, quoi, ou un peu évidemment meilleur qu'une docu-fiction, mais il n'y a pas le petit truc en plus qu'on a l'habitude d'avoir avec Spielberg.
Alors, moi, j'attendais vachement ton avis sur ce film, parce que tu nous l'as déjà dit, en plus, t'es grand fan de Spotlight.
Ouais.
Il y a quand même un parallèle à faire entre Spotlight et Pentagon Papers. Alors, qu'est-ce qu'il y a Spotlight qu'il n'y en a pas Pentagon Papers?
Alors, Spotlight, la réalisation du film, j'ai du mal à juger, mais je la trouve très bonne, mais j'aurais du mal à donner les détails. Spotlight, moi, ce qui m'a conquis, c'est le jeu d'acteur. Parce que dans Spotlight, du premier rôle jusqu'au quatrième, cinquième rôle, tout le monde joue à merveille. Il y a des dialogues monstrueux dans Spotlight, il y a des échanges entre les acteurs qui sont vraiment tout simplement géniaux. J'ai la scène où t'as dans Spotlight, c'est des enfants violés par des curés aux États-Unis, un ancien enfant violé qui vient témoigner auprès du journal pour leur dire « Allez-y, enquêtez ». Le dialogue entre les journalistes qui essayent de voir si le mec est pas complètement taré, mais le mec est forcément un peu taré parce qu'il a une enfance dégueulasse. Le dialogue entre les quatre journalistes et le mec, qui est un sixième, septième rôle parce qu'il fait juste cette apparition-là, et c'est du très très grand cinéma, de la très grande direction d'acteur.
Spotlight que tu avais quand même noté 10 sur 10.
Ouais, parce que sincèrement, je n'ai pas trouvé de défaut.
C'est un peu ton Tango et Cash
des temps modernes.
Ah bah sur ce thème-là, ouais, sur les faits réels, sur des trucs comme ça, parce que c'est difficile, les films basés sur des faits réels, c'est souvent difficile de faire un bon film parce que tu restes accroché aux faits réels, tu n'as pas de twist dans le scénario, donc tout réside dans la réalisation et le jeu d'acteur, et Spotlight, dans la réalisation et le jeu d'acteur, il cartonne.
Alors, je vous propose un petit tour de table, et le thème du tour de table, du coup, ça va être les films inspirés de faits réels. S'il y a quelque chose qui vous vient, est-ce que tu as une recommandation déjà de jeu?
Dernièrement, j'ai noté ça cet après-midi, j'ai regardé Moi, Tonya, Hi, Tonya, le film sur Tonya
Harding.
Oui, c'est Tonya Harding, merci. Le film sur Tonya Harding, qui est très bon, parce que du coup, l'actrice qui est Margot Robbie, je crois, qui joue Tonya Harding, est monstrueuse dedans. Elle est vraiment très très bonne. Et en plus, ça m'a donné une seconde lecture à ce fait. Que moi j'ai connu quand j'étais gamin, où on a tout le monde entier a haï cette fille-là parce que soi-disant elle avait commandité l'agression de sa principale rivale américaine. Ça donne une seconde lecture que j'avais pas. Donc, du coup, très bon film.
Je voudrais quand même réagir sur Pentagon Papers. Je trouve que t'es un peu sévère quand même.
Mais je suis sévère parce que c'est Spielberg.
Oui, mais justement, moi, j'étais content de retrouver un classique. Il a imité le style d'Hollywood qu'on voit plus souvent. Un peu comme The Lost City of Z, qui est sorti l'année dernière, et qui, pour moi, était un bon film dans la veine des grands classiques hollywoodiens. Et Pentagon Papers, ça sera peut-être pas le film de l'année, ce sera pas le meilleur film de Spielberg, mais je trouve que les acteurs, ils sont vraiment bons, ils sont hyper convaincants.
C'est un exercice de style, quoi.
Ouais.
Ouais.
Moi, j'ai pas accroché.
Un peu sévère.
Je suis peut-être sévère, mais moi, j'ai pas accroché.
Ok, bah on vous invite à venir partager vos avis sur le site kifilm.fr si vous avez vu Pentagon Papers. D'autres. Quelqu'un peut pour me parler
ouais, de moi, j'ai failli être pris de court par ta question. J'ai triché, j'ai été sur Kifilm, regarder mon profil et voir un peu si j'avais quand même quelques coups de cœur en inspiré de Ferrel. Et en fait, du coup, je vais reparler d'un truc pareil qu'on a abordé la dernière fois. Mais j'en ai deux. Il y a quelques années, 2007, j'ai sous les yeux, il y avait Persepolis qui m'avait scotché.
Attends, c'est un dessin animé, ça peut pas être.
C'est dans la partie film. J'ai le droit.
C'est pas de la réalité.
C'est inspiré. T'as dit inspiré de la réalité. Ah non, c'est pas tout récent, c'est à 11 ans, on est bien d'accord.
Les Simpsons, ça marche du coup.
Non. Mais c'est pas grave parce que c'est pas de Persepolis que j'avais parlé. J'avais parlé de Nous Trois ou Rien.
Ah bah oui.
Et oui. Donc lui n'a que 3 ans, donc là c'est bon, j'ai le droit d'en parler, c'est pas trop vieux. Qui est pour le coup qui est peut-être moins réaliste parce que j'ai oublié le nom du réalisateur,
c'est Kéron,
qui raconte en fait l'histoire de ses parents. Bon, j'imagine que c'est pas mal romancé, ce genre de etc. Mais donc comme Persepolis, c'est la montée du Shah d'Iran, ses parents voilà, qui vivent ça, qui fuient l'Iran, c'est vu d'un point de vue humoristique. Et c'est je sais pas, c'est un entrain là-dedans qui est fantastique.
Moi, je trouvais que ce film-là, il avait trouvé la parfaite balance entre l'humour et le drame.
Ouais, tout à fait. Mais
c'est tout ce qui est dramatique et jamais larmoyant, c'est jamais chiant. Il y a toujours une petite pointe d'humour. Enfin, il y a vraiment une vraie balance dans ce film.
Il montre en fait que dans des situations dramatiques, il y a du bon qui sort. Il y a du bon qui sort et voilà quoi. Il fait ce contrepoids aussi à Persepolis. Faut avoir vu les deux et c'est vraiment très bien.
Oui, mais est-ce que on voit des filles à poil?
Eh ben, pas des masses.
Moi, je peux rebondir. Sûr.
Alors, tiré de Ferrel, un film de cul, je sais pas. Hein.
Lovelace. Non, j'ai pensé. Alors, c'est pas un film assez récent, mais je rebondis sur Tom Hanks. J'ai pas vu de film.
Le Pont des Espions.
Non, c'est Catch Me If You Can. Qui est assez vieux.
Et lui, il a le droit de faire des vieux films.
C'est pas vieux. Pour le coup, oui, Catch Me If You Can. C'est aussi un exercice de style.
Ouais, exactement.
Dans la réalisation. Quoi.
Il a un petit côté qui ressemble à Pentagon Papers dans le travail d'exercice de style, je veux dire pas dans le rythme ou l'histoire, mais cette course effrénée entre Tom Hanks et DiCaprio est vraiment pas mal. Ouais. Et bah t'as tout le génie un peu.
Moi qui n'ai pas vu Pentagon Papers, c'est lent.
Non, c'est pas un film. En plus, c'est un film très long. Il doit faire 1h30, 1h40. C'est pas assez. Non, il est pas lent.
2003, quand même. Arrête-moi si tu peux, quoi. Moi, je me suis fait vanner avec Persepolis 2007. Hein.
Non, t'as vanné parce que c'était un dessin animé. Enfin, c'était un film d'animation.
Non, t'as bien dit dessin animé. T'es encore plus condescendant.
Bon, je vais enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. On approche de la demi-heure. Trop combien de temps on va tenir. Et c'est l'heure d'écouter notre invité, Monsieur l'Ours, Guillaume, qui va nous parler série avec le retour d'une série dont il va nous dire lui-même le titre. Il l'a choisi.
Effectivement, voilà. Je me suis mis tout seul dans la mer puisque j'ai pris une série qui est un petit peu compliquée à dire puisque je vais vous parler de The Handmaid's Tale. Voilà, premier essai, premier craquage, voilà. The Handmaid's Tale. Donc, il y a une série traduite en France par La Servante Écarlate, pour ceux qui préfèrent le dire en français en se sauvegardant d'un accent anglais un peu foireux. Donc, c'est une série produite par une plateforme de contenu en streaming un petit peu comme Netflix qui s'appelle Hulu.
Ou Hulu.
sais pas comment on dit.
Ils font très bien,
ouais, ouais, qui est diffusé en France sur OCS 24 heures après la diffusion américaine, quand ça veut bien marcher. C'est pour le contexte du coup adapté en tout cas pour la saison 1 d'un livre de Margaret Atwood publié en 85 et pour l'anecdote il y a eu une première adaptation en 90 en film cette fois avec notamment Faye Dunaway et Robert Duvall voilà, dans en tête d'affiche de ce film. Et pour toujours le contexte de la série ça va être on va retrouver au poste de showrunner Bruce Miller. Qui n'a pas un CV de fou parce que il a notamment bossé pour la série The 100 et Eureka. Bon, Eureka qui était une série pas mal. Donc ça c'est pour le contexte, le pitch de la série. Donc ça raconte l'histoire d'une Amérique dystopique. C'est un monde qui est assez proche d'une autre. Peut-être, je sais pas, je crois que c'est 3 ou 5 ans dans le futur par rapport à aujourd'hui où des problèmes écologiques, sanitaires ont créé une baisse drastique de la natalité. Et du coup, la société s'est réorganisée en caste où chaque femme, notamment, a son rôle. Donc femme de la caste un petit peu bourgeoise, gouvernante de ces maisons-là et... personnes, on va dire, des intellectuels, des scientifiques qui sont, eux, un petit peu envoyés dans ce qu'ils appellent les colonies, dont on découvrira plus tard l'utilité pour cette société-là. Et donc, on va suivre en particulier la caste des handmaids, qui donc sont les servantes, et qui n'ont d'autre rôle que de servir de faiseuses d'enfants pour cette société qui est devenue fertile, et donc de ventre, tout simplement, pour les femmes, notamment les femmes des personnes les plus riches. Pourquoi le pitch est quand même assez particulier. Pourquoi c'est une série à voir? Alors, déjà parce que personnellement, je trouvais que c'était un univers qui était très proche de nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des repères sur lesquels on peut s'accrocher pour s'immerger dans ce monde-là. Mais en même temps, c'est assez mystérieux. La série utilise, comme beaucoup de séries high concept, avec comme ça un truc un petit peu dystopique, des notions de flashback pour qu'on découvre un peu comment on en est arrivé là. Et c'est vrai que c'est cette série-là, elle t'invite vraiment à regarder aussi des épisodes pour parce que tu te poses vraiment la question de te dire, mais putain, comment on en est arrivé là, quoi. C'est juste, comment cette société a pu évoluer aussi vite et dans dans un visage aussi flippant et aussi différent. La deuxième raison, c'est aussi que les acteurs sont hyper convaincants. Notamment le personnage principal qui est joué par Elizabeth Moss, qu'on avait vu dans Mad Men. Alors je pense qu'elle a été castée pour sa capacité à pleurer sur mesure. Parce que clairement, elle est impressionnante, elle transmet vraiment une émotion de fou, mais il n'y a pas un épisode où elle verse pas sa petite larme, et a raison. Et on retrouve aussi, pour les têtes connues, il y a Joseph Fiennes, donc le frère d'eux, et Yvonne Strahovski, qui avait joué notamment dans les dernières saisons de Dexter, qui était un petit peu la petite amie psychopathe de Dexter, qui joue les deux personnages de, justement, personnages de la famille un petit peu riche, qui héberge le Landmaid. C'est une série qui prend pas mal son temps pour poser son univers. Il n'y a pas un rythme de fou, mais ce qui est assez remarquable, c'est que c'est une série qui n'hésite pas à complètement faire évoluer son intrigue de manière assez radicale, je trouve. Et ça, c'est cool parce que d'un côté, c'est pas un rythme effréné, mais en même temps, au bout de la première saison, il y a déjà un univers qui a été bien chamboulé par la narration. Donc ça, c'est assez cool. Et c'est aussi une série qui est très actuelle, malgré sa matière première qui est quand même vieille de 30 ans. Et du coup, je trouve que c'est presque flippant de se dire que adapter un livre d'il y a 30 ans et se dire que c'est carrément un truc actuel aujourd'hui par rapport à la condition de la femme, à l'inclusivité, des gens dans la société, aux problèmes écologiques et tout, c'est assez, assez flippant. C'est
produit par Weinstein.
Ça serait assez ironique, je pense, mais non, c'est produit par Hulu du coup. Ouais. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'effectivement, notamment, clairement, là, cette société dystopique là, elle est quand même assez mauvaise quelque part. Le côté dystopique fait que, tu veux peut-être que je.
On a parlé. On l'a défini dans le podcast épisode 0 qui filme Christophe qui était là.
Et bien voilà, je vous invite du coup à retourner écouter l'épisode 0 pour un petit peu creuser. Ouais, tout à fait.
D'accord.
Les gens qui contrôlent cette nouvelle société sont un petit peu, on va dire, les méchants. Je prends de gros raccourcis, mais c'est des gens qui véhiculent une manière de vivre qui en même temps qui répond à des problématiques actuelles, c'est-à-dire qu'ils sont écolos. Ils promeuvent la production locale, enfin que des trucs comme ça où aujourd'hui on se dit que c'est des choses qui sont importantes, bah eux ils le sont aussi, donc ça crée pas mal de nuances.
Ça parle aussi de manipulation politique, évidemment. Comment ces gens-là, ils sont arrivés à créer cette nouvelle société sans avoir énormément de, finalement, de friction dans la mise en place de tout ça. Et on te montre comment, politiquement, ils y sont parvenus.
On critique, mais elle marche pas si mal.
Surtout si tu es riche. Et voilà, donc c'est une série qui est quand même véhicule des thèmes qui sont assez forts et que je trouve qu'ils sont traités sans vraiment complaisance, sans voyeurisme, alors que pourtant il y a un côté assez trash et un côté assez intime aussi dans ce qui se passe. Et,
parce qu'elle montre quand même assez clairement du viol.
Voilà, exactement. Ouais.
Donc faut...
Et d'ailleurs,
faut réussir à l'amener, quoi.
Ouais, complètement. Ouais. En conclusion, je dirais, c'est un petit peu ce que je disais dans ma critique sur Kifim. Série, j'ai noté pour l'instant 8 sur 10, alors c'est un petit peu compliqué, la série n'est pas terminée, elle a encore le temps d'exploser, de mériter un 10, ou alors de se casser la gueule et puis de devenir irregardable. Pour l'instant, on est en cours de la deuxième saison. Mm-hmm. Je trouve que la première saison, c'est une grosse claque, aussi bien émotionnelle que, y a quand même un rapport assez physique. Il y a vraiment un truc qu'on ressent, quoi, physiquement. La deuxième saison commence assez moyennement, je trouve, mais au bout du troisième épisode, c'est reparti et y a de belles choses qui vont arriver, à mon avis. Donc, hautement recommandable, The Handmaid's Tale et 8 sur 10 sur Kifim.
Moi, j'ai eu un très gros problème avec la première saison de La Servante Écarlate. Je suis pas sûr. Et je suis sûr que je vais l'avoir avec la deuxième saison, c'est que j'ai une furieuse envie de buter le chef éclairagiste de cette série. C'est-à-dire qu'il passe à peu près un plan sur deux, il y a un petit rayon de soleil couchant qui passe à travers un tas de poussière pour vous faire un beau comme ça, façon gare de train de je sais plus quand là, de New York. Et alors bon, déjà il le fait, pourquoi pas, il en abuse, ça devient dégueulasse, mais il en abuse tellement le mec qu'il y a un plan à un moment où ils sont sous un toit en pente et il y a deux rayons qui viennent et qui se croisent, et à moins que cette série se passe sur une planète à deux soleils, là, vraiment, il a quand même été beaucoup trop loin. Et j'ai focalisé,
mais tu t'ennuies,
toute la série, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il faut la voir en y pensant, et on se rend compte.
En fait, t'as passé la série à chercher le deuxième soleil.
Ouais, c'est ça. Non, mais.
Là, tu viens de chercher ça à tout le monde. Tout le monde va regarder.
T'as créé une
non, vous verrez que ça. Mais ça m'a plombé la série. Je suis désolé. Non, j'ai trouvé très très bien. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a noté ce truc-là, en fait, on le cherche, quoi. Et dès qu'elle est dans sa chambre, c'est comme ça. Dès qu'elle est n'importe où, c'est comme ça. Et jusqu'au point où les mecs, il y a des rayons qui rentrent dans tous les
sens. C'est bonne remarque dans le sens où c'est une série qui se veut aussi assez léchée au point de vue de sa réalisation, quand même, avec un grain, une couleur, un étalonnage.
Est-ce qu'ils n'ont pas été trop loin dans la recherche d'ambiance pour amener une recherche d'ambiance lumineuse? Et voilà, ils ont.
Ils vont jusqu'à braver les lois de la physique.
C'est la DR en même temps, quoi. Je veux dire,
ouais, complètement. Il y a ce rouge très présent.
Précisons quand même que cette série qui est adaptée d'un roman s'en éloigne maintenant, puisque le roman s'arrête quand s'arrête la première saison.
Ouais.
Et donc, ce qui est
assez marrant d'ailleurs, c'est
que,
juste cette petite précision, mais ce qui est marrant, c'est que le roman se finit par le même cliff que la série.
Ouais,
et à l'époque, je pense que les gens étaient fous, quoi.
Complètement.
Il n'y a pas de suite, quoi. Comment ça se passe?
C'est pas la mode d'Harry Potter.
Mais donc,
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait nous amener à parler peut-être dans un prochain épisode sur une thématique, à parler de la transformation qui s'opère maintenant chez les producteurs et les diffuseurs, comme on a lu là aujourd'hui. Ça aurait pu être une news, hein, que Netflix avait racheté Arrested Development, ceux qui avaient suivi cette série comique, avec l'excellent acteur qui joue dans Ozark, qui joue plein de trucs, qui est énormissime. Et ils ont fait un truc de fou, c'est-à-dire que tu peux trouver les trois premières saisons de Arrested Development sur la plateforme. Et puis si tu vas chercher un peu dans les méandres du truc, tu trouves ce qui était originellement la saison 4 qui a existé. Et en fait, eux, avec l'accord du showwriter, showrunner, machin, ils ont tout remonté. Ils ont tout remonté, et donc tu trouves une nouvelle version de la saison 4 d'une série qui a été tournée sur Netflix. Ouais. Ah ouais. Et apparemment, ça inaugurerait un peu une sorte de nouvelle ère des rapports qu'il va y avoir peut-être entre les showrunners.
George, l'utilisation
de la série, quoi. Les anciennes saisons et celles de
c'est le même traitement qu'il y avait à Casa de Papel.
Ah oui, exactement.
Netflix a vraiment redécoupé le rythme par rapport à la diffusion d'Antena 3 en Espagne. Et en Espagne, ça n'a pas fait un gros succès. On connaît le succès maintenant de cette série après diffusion sur Netflix. Il n'y a pas photo, quoi.
Guillaume, Monsieur l'Ours,
ouais.
qui officie également d'ailleurs sur le podcast Tournée Générale, qu'on vous invite bien sûr à découvrir, et qui, voilà, on marche un petit peu, nous, dans les pas de ce podcast rennais. une thématique que peut-être vous pourriez aborder là-bas. C'est aussi cette thématique que j'adorerais des meilleurs clips de première saison. Et pour le coup, celui de la Casa des Papels est quand même vachement cool, quoi.
Alors pour le grand public, c'est quoi un clip?
Un cliffhanger, ouais, t'as raison, chemin. C'est la façon qu'on a tous découvert un peu plus jeune dans la série, dans la vieille série Batman, qui se déroulait très souvent sur deux épisodes, et où à la fin du premier, t'avais systématiquement le héros dans une position hyper délicate. Et donc, voilà, on laissait la personne sur le suspense maximal, histoire qu'il ait envie de regarder l'épisode qui suit. Et donc, on pourrait peut-être faire une thématique là-dessus, hein, autour des meilleurs clips, ouais.
Et des meilleurs éclairages de série.
Ouais, il a des envies thématiques.
Ouais, ouais,
c'est rigolo.
Donnez-nous votre avis en commentaire sur
ce. Déguisé en Batman?
Peut-être.
Je note.
Tu ne viens plus, soit.
Est-ce que je peux rebondir vite fait?
J'ai déjà rebondi tout à l'heure.
Oui, j'aime bien rebondir en ce moment. Non, c'est juste, si jamais vous avez. Bon, là, c'est le sixième épisode cette semaine de la saison 2 qui a été diffusée. Si jamais vous avez envie de se faire un peu plus de cet univers, il y a une série qui est sortie d'un bouquin de la même auteur, qui a été sortie par Netflix, qui s'appelle Alias Grace. C'est en anglais, je sais plus ce que c'est. Ils ont la traduction française, c'est Alias Grace. Alors, par contre, c'est à peu près dans le même genre d'univers, autour de servantes pauvres, de classes pauvres et de riches qu'on abuse. Mais la note est divisée par deux.
En termes de budget ou...
Non, en termes de ressenti. Enfin, moi, ma note personnelle est divisée par deux. C'est un peu bizarre. C'est autour d'un procès d'une de servante, entre guillemets. Alors là, elles s'occupent pas d'enfants. Enfin, elles sont pas là pour être engrossées. Mais c'est des servantes dans des maisons. Et en fait, il y a un meurtre. Et elle est accusée. Et en fait, on remonte toute l'histoire. Et on découvre... son histoire
est passée. C'est ta note perso qui est divisée par deux. Quoi.
Oui, c'est ma note perso qui est divisée par deux, et c'est aussi la note que vous pouvez retrouver sur IMDb ou tout ce que vous voulez, Rotten Tomatoes ou n'importe quoi. La note est pas
qui
très
fine.
Et qui filme, bien évidemment, pour le. Comment
Monsieur l'ours.
Pour la France.
Tu vas lancer un petit tour de table, un petit peu, enfin, si vous passez la main. Mm-hmm. Donc, si on a aimé Beyond Mary's Tale, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ou qu'est-ce qu'on peut lire, ou qu'est-ce qu'on peut découvrir?
Une dystopie pure, comme ça.
Alors, soit une dystopie, soit une société patriarcale, soit une révolte, un changement de condition.
Moi j'en ai une.
Le
temps que tu réfléchisses.
Ouais, parce que...
Et puis en fait, ça me fait un peu deux épisodes qu'on parle dystopie. Et puis dans Tournée Générale, ils ont aussi parlé de dystopie. Et je me dis, putain, mais c'est incroyable. Parce que j'avais quasiment jamais entendu ce mot-là avant. Et maintenant, j'entends plus que ça. Donc moi, j'ai décidé de vous parler d'une uchronie.
Ah.
Voilà. Alors qu'est-ce que c'est une uchronie?
Une uchronie dystopique.
Une uchronie, c'est quand, en fait, on dit « et si ». Et du coup, une série qui, pour moi, me fait penser à La Servante Écarlate, mais qui n'est pas une dystopie, qui est une uchronie, c'est The Man in the High Castle, qui est « et si ». Et Nazi avait gagné la guerre. Et du coup, j'y vois un parallèle.
Le bouquin de...
C'est adapté de Philip K. Dick,
de Château. Donc moi je parle de la série.
Et l'été dernier.
Et donc il y a une série. Oui, il y a une série sur le sujet.
Amazon.
Qui est relativement bonne, qu'il faut regarder absolument pas partout sauf sur Amazon, puisque elle n'est quasiment pas sur Amazon. Ils la mettent environ un an après. T'as toujours que la saison 1,
je crois. Et la 2 est dispo.
Ouais, enfin la 1, la 3, quand la 2 est dispo, enfin quand je l'ai regardé par des moyens autres. Que Amazon.
Si vous êtes d'accord avec Pedro, mettez un pouce. Si vous êtes d'accord avec Guillaume, vous mettez.
L'explication est très rapide, c'était le lancement d'Amazon en France. Et Amazon en France a eu beaucoup de problèmes de droits par rapport à Amazon US. Sauf que maintenant, le problème est réglé. Donc on trouve directement les séries.
Et bien c'est parfait. Mais donc, voilà, dans le genre univers, enfin, futur différent, non dystopique mais chronique.
Toi, Schnapp, tu as vu La Servante Écarlate?
Non.
Tu l'as lu?
Non plus. Non, mais donc, c'est vrai que je l'avais mis sur ma liste.
Et dans la catégorie les univers possibles.
Les univers possibles, il y en a tellement. Mais en fait, j'étais en train de penser au bouquin de Philip K. Dick avant que Guillaume en parle. Donc voilà. Il m'a grillé mon.
Ok. Est-ce que quelqu'un a noté The Man in the High Castle sur Kifim? Ouais. Pedro.
Oui, alors moi j'ai vu que la saison 1 de La Servante Écarlate, pour pas le dire en anglais, le maître du château, moi j'ai beaucoup aimé. Aussi c'est pas mal, et j'ai une troisième série en dystopie. C'était une série diffusée sur Arte, c'était une série française qui a malheureusement mal fini, et il n'y a qu'une saison, c'est Trépalium.
qui est vraiment super intéressante. Et
qu'on a évoqué dans le dernier podcast, très avec son parallèle avec 3%, qui est
oui, exactement
une série sur le même thème.
Ouais, exactement. Donc un monde divisé entre les castes très riches et la caste très pauvre, divisé par un, avec un mur. Et
cette... Spoiler, il y a beaucoup moins de riches que de pauvres.
Voilà. Et donc cette confrontation entre les deux mondes qui va aller jusqu'à un point de friction très intéressant. Pour rien en dire de plus de l'histoire. Non, c'est très intéressant. Malheureusement, il n'y a qu'une saison, il n'y a que 6 ou 8 épisodes. Ouais. Et ça à partir de 4e, 5e, il y a eu changement de réalisateur parce que coupe de budget et ça se sent beaucoup.
Ça avait un... Moi, je l'ai vu, j'avais assez apprécié le truc, mais ça avait un côté un peu kitsch, relativement assumé, assez minimaliste,
assez pauvre,
dans le décor qui était un peu chelou.
On n'a pas du tout dans 3% qui, pour le coup, est vachement plus épique. Quoi.
Ouais. Tu passes de utopie, non, dystonie à chelou.
Non.
À chelou. Tu changes de vocabulaire.
Jungle Juke.
Ça va rester, ça. Bah pour le coup, non, il faudrait que je relance The Man in the Castle, pardon, parce que j'avais regardé le premier épisode. Il y avait un petit côté chill dans la réalisation, mais qui n'est pas gravissime. Quoi.
Qui disparaît petit à petit.
Qui disparaît en plus derrière, mais il faudrait que je relance, surtout parce qu'en plus, je suis un peu en période de disette en ce moment sur les séries. Donc, ouais, il faudrait que je relance.
Alors, je ne sais pas comment tu fais.
Moi, dans les SI, j'ai dû la noter d'ailleurs, Dr. Mad Geek sur Kifim. Il y a une série, une vieille série, mais qui quand même avait bien marqué. C'était Sliders.
Un parallèle.
Où, bah, comme son nom l'indique, hein, voilà, on tombait de monde en monde, et il y en a eu certains qui ont bien marqué, quand même, notamment l'univers nazi, hein, qu'on
retrouvait dans Paris. Qui marche toujours.
Le point de vue des séries.
Et il y a pas mal de trucs sur le net sur Sliders. Et en fait, quand tu regardes ça, tu te rends compte que ça a été mais complètement bâclé sur la fin des, c'est la fin des années 90 ou 2000.
J'ai souvenir d'un épisode où ils arrivaient dans un monde où il n'y avait plus de mecs. Ouais. Et du coup, les femmes géraient toute la société. Il y avait des espèces de maisons closes de mecs réservées aux femmes parfaites, avec un côté un peu The Handmaid's Tale, du coup. Et bon, voilà, c'était...
Je pense qu'on a tous un sacré épisode de Sliders quelque part dans le coin de la tête.
Le monde parfait, quoi.
J'ai pas vu, malheureusement. Moi non plus.
Mais Pedro a 14 ans, donc...
Non, c'est le double, il a 14, mais...
Non, moi, j'étais plus la casse à une dimension.
Ah ouais, mais moi aussi, grand fan, j'ai tous les DVD. Oh là là, exceptionnel. On en parlera dans un prochain truc. Oui. Mais on va t'entendre maintenant, Chenin, parce qu'on va enchaîner sur la rubrique jeux. Notamment, là, ça va être jeux de société ou
jeux de société. Jeux de société. On parle pas de jeux vidéo sur Kifim.
Et non, c'est vrai, non, mais ça aurait pu être un
ça jeu. Ça s'expliquera un jour.
Jeu de Chenin. Pardon. Allons-y, on t'écoute.
Alors, on va parler donc de Oliver Twist. Alors, si vous avez des jeux de mots à faire, c'est maintenant.
Paul, une tourtelle.
Oh là là.
Non, mais moi, on m'invite.
On a un jeu de mots.
J'y vais. Bon, on sait pourquoi je viens.
Non, je vais peut-être nous dire Oliver Twist encore. Twist again.
Oh là là, ah, là non.
Attends, il faut savoir que Chenin met le niveau hyper haut en termes de blagues pourries. Il a une page fan Facebook.
Alors, je mets le niveau apéro.
As-tu ta page fan?
Alors, par contre, j'arrive à un moment de la journée où on n'a plus beaucoup de lumière et avec mon âge, j'ai du mal à lire sous mes notes. Hein.
Oui, car Chenin a 700 ans.
Donc, Oliver Twist est sorti l'année dernière, donc en 2017. C'est un jeu de Bruno Catala et Sébastien Pochon, donc c'est un jeu français. Donc, Bruno Catala est très connu pour les amateurs de jeux de société. Il fait énormément de jeux. Donc, il est derrière, par exemple, Seven Wonders Duel. Par exemple, il vient de sortir Imaginarium. Enfin, il sort à peu près 10 jeux par an depuis quelques temps. On le voit peut-être un petit peu trop.
Ce qui tient de l'impossible, sachant qu'il y a des jeux qui mettent 2 ans à peu près à être créés.
Oui, mais alors parfois, en fait, c'est un peu comme Peter Jackson. Hein. Parfois, il met un peu son nom au générique pour faire un peu plus vendre les jeux. Bon, là, c'est pas le cas. Là, il est vraiment derrière le jeu. Sébastien Pochon est un peu moins connu, mais ils ont travaillé ensemble sur Jamaica. Et Sébastien Pochon a travaillé aussi sur Jaipur et Unlock. Enfin, l'un des numéros de Unlock. Ok, donc vous connaissez
Unlock. Voilà, c'est un beau pénigré.
Okay, voilà. Donc, c'est un jeu qui a une durée approximative de 60 minutes à partir de 10 ans. À mon avis, comme d'habitude, on peut le tester plus jeune, pour 2 à 4 joueurs. Alors, de base, c'est un jeu qui est rythmé en Oui, pardon, excuse-moi. C'est un jeu qui est rythmé en deux phases, le jour et la nuit. Déjà, ça, ça c'est original.
On comprend.
Il y a deux phases. Donc, il y a une sorte de dissymétrie dans le jeu. Il y a assez peu de jeux qui sont coupés en deux phases, comme ça. Chacun son tour, donc pour les joueurs, les 2, 3 ou 4 joueurs, on aura le choix entre 3 actions. Les actions seront éventuellement de se déplacer, rôder, comme ils disent dans les règles. Donc rôder, ça signifie voler un objet qu'on va trouver dans la rue.
Et voilà.
Et voilà. Bah, c'est le terme de l'ouverture
que ça. Et en plus, c'est un arabe.
Oui, ouais, excuse-moi. Ouais, d'accord. Enfin, c'est des petits larcins, quoi. Ça peut être des mouchoirs brodés, ça peut être des pommes, c'est des petits larcins à Londres. Parce que on est dans l'univers de l'Oliver Twist. Donc on va pas rappeler ce que c'est que l'univers de l'Oliver Twist, mais c'est forcément à Londres, avec des gamins des rues.
Alors toi tu dis Twist.
Twist, oui.
Mais c'est l'accent du 8 et du week-end aussi.
Ah, oui, c'est l'accent du 9.
Ah, d'accord. Ah, non, d'accord.
Il vient de citer. Donc on peut voler des objets. Alors je fais une petite parenthèse pour dire qu'on n'a pas chacun un jeton, on n'a pas chacun un personnage à déplacer sur le plateau. On a un seul personnage qui représente la bande
l'arnaque.
De gamins. Non, c'est pas l'arnaque, c'est une bonne idée, j'irais.
Je rebondirai là-dessus après.
Ouais, on va en parler. Bon, moi je dis tout de suite que je trouve que c'est une bonne idée parce que ça oblige à l'interaction. Ça oblige... T'as déplacé le pion à tel endroit, non, c'est à toi de jouer, alors toi tu le mets où ? Et à chaque fois on reprend là où il a été posé. D'ailleurs, dans la stratégie, on peut avoir un intérêt aussi parfois à ne pas jouer. Donc on va avoir par moment des jetons qui vont pas être des objets, mais qui vont être des personnages. On va piocher un personnage et on va le jouer, soit pour dire « je passe mon tour », donc des fois ce personnage, soit pour demander de l'aide à un personnage qui va donner un petit bonus. Sinon, on peut aussi aller chez Fagin. Alors, faut bien faire attention. Au début, on se trompait beaucoup. On prononçait Fagin. Puis ça sonne pas toujours très bien. Comme pour un jeu familial, ça passe pas. Donc,
Fagin.
Alors qu'ils auraient pu l'appeler Toto. Que je fais moi quand je joue, et c'est beaucoup plus simple.
Oui, ça va plus vite. Voilà. Fagin. Donc, on peut aller chez Fagin pour apporter ses collectes, un ensemble de jetons identiques pour l'échanger contre de l'argent. Alors bien sûr, le but du jeu, c'est de rapporter le plus d'argent possible à la fin du jeu.
Et
le
jeu capitaliste.
Voilà, c'est un jeu capitaliste. Alors, c'est un jeu, finalement, avec des règles assez simples. Et malgré tout, on a toujours la possibilité d'avoir une stratégie en fonction de ce qu'on peut faire. Ah oui, alors j'ai pas précisé qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Les règles sont quasiment identiques, sauf que la nuit, on a des jetons, on a les cambriolages qui sont possibles. Et on a des jetons qui sont cachés. Bon, je rentre pas plus dans les détails. Moi, je dirais que pour moi, les points forts de ce jeu, c'est qu'on arrive à faire un jeu familial qu'on peut sortir facilement, qui est pas trop long, mais qui est pas trop court non plus. C'est pas le jeu qui dure un quart d'heure, le petit jeu d'apéro. C'est un jeu où il y a la stratégie, mais pas trop. Donc finalement, il est assez bien équilibré.
Ouais,
l'univers est bien rendu. On l'a sorti à une soirée jeu ici il y a quelques semaines. Ça avait très bien fonctionné. Moi, je pensais que ça fonctionnerait bien avec des enfants, ce qui est le cas. Et finalement, ça marche aussi très bien avec des adultes. Le thème est bien rendu, le matos est bien, c'est du carton vraiment bien solide, il faut vraiment y aller pour l'abîmer. Alors je suis pas hyper fan du graphisme en soi, mais il est cohérent, quoi. Y a pas de problème non plus là-dessus.
Il fait de la soie.
Non, alors j'ai déjà fait cette blague, mais en 92, je crois.
D'ailleurs, les années 90 m'ont appelé, elles m'ont demandé que tu leur rendes toutes leurs affaires.
Leurs blagues, n'est-ce pas ? Voilà. Moi, je trouve que c'est un jeu assez fin, assez équilibré. Je l'ai fait tester à Guillaume, à ma droite, ce Guillaume-là.
Ouais.
Pas le barbu, mais le Kiffimer d'origine.
Le moins.
Alors, pour parler des points faibles, ça reste quand même un petit jeu. Moi, je suis assez fan quand même des jeux d'experts. Ça, c'est pas un jeu expert, mais c'est pas non plus un jeu qu'on va sortir à un non-joueur. Donc, il est entre les deux. Je pense qu'à bout d'un moment, on peut le trouver répétitif. C'est-à-dire, bon, c'est quand même assez simple. Bon, comment dire ? Enfin, je sais pas, Guillaume, toi, tu n'y as joué qu'une seule fois.
Moi, du coup, tu me l'as fait essayer. Alors, moi, je suis plutôt un joueur expert, on va dire. C'est vrai qu'il s'aborde très bien. Alors, pour un joueur expert, c'est facile. On y a joué, du coup, une partie où on était deux experts. Ça marche, on ne s'est pas ennuyé, je pense que tous les deux on a envie de développer notre petite stratégie et la partie devient un petit jeu de réflexion, je dirais presque façon échec hyper simplifié, qui marche bien. je me suis bien amusé. Après, j'ai pas fermé, c'est pas, je termine le jeu et aussitôt je me dis ok, on fait la deuxième parce que maintenant on va y aller. Mm-hmm. On n'est pas non plus dans un jeu qui, où il y a de tant de mécaniques à découvrir qu'on a une envie, on a une envie immédiate de recommencer. Donc super bon jeu.
Un jeu de médiathèque quoi.
Ouais, mais mais super bon jeu, tu vois. Christophe parlait des soirées jeux, donc soirées jeux où t'as tout type de joueurs et où tu peux pas sortir, ce qu'on disait, intermise 4-3 heures, bah tu sors ça, ça dure une heure, c'est facile à expliquer, c'est facile à comprendre. Moi, c'était ma première partie, j'ai battu Christophe sur le fil.
Oui, non. Ça c'est intéressant.
Alors que Christophe est expert, rappelons-le.
Non, joueur expert. Non, mais non, alors, et voilà. Attends, je finis et je te laisse reprendre son coup. Je finis. Okay. Donc voilà, vraiment un truc sympa à découvrir. Alors que je partais avec un a priori très négatif parce que j'ai pas du tout aimé le graphisme de la boîte. Mais par contre, moi, le mécanisme, toi, tu as mis entre parenthèses du pion unique. Pour tous les joueurs, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le monde du coopératif. Mmh, mmh. Mais là, on n'est pas du tout dans le coopératif, c'est chacun pour soi. Et un seul joueur pour tout le monde, c'est un mécanisme qui est peu vu, voire hyper original, que du coup, j'ai trouvé super intéressant. Et effectivement, petit plus pour le matos fourni, où en fait, on pose ses pions sur un espèce de petit toit de petit toit londonien en carton, hyper solide, hyper bien fait. En 3D,
ça ressemble à un Toblerone.
Ouais, donc voilà, une belle boîte, un bon jeu pour qui veut avoir une ludothèque.
Ça coûte combien ?
Accessible, c'est pas mal.
Alors justement, il est pas si cher que ça. Je crois que neuf, il doit être à 34 euros, il me semble. Maintenant, d'occasion, on peut le trouver facilement à 25. Moi, j'ai eu d'occasion, mais comme neuf. Il est nickel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai apprécié, j'ai oublié de le dire, mais à chaque fois que j'ai joué, j'ai été surpris des scores. C'est-à-dire qu'on croit parfois être en avance sur les autres. On se dit, là, je ramène plein d'argent et tout. Comme l'argent est caché, il y a juste entre le jour et la nuit, on dit combien on fait un point, on dit combien on a pour savoir qui est en avance par rapport aux autres. Ce qui n'est pas bon non plus. Hein. En fait, je suis à chaque fois étonné de voir que je suis pas loin des autres, mais que contrairement à ce que je pensais, j'ai pas gagné. Alors qu'il y a des jeux où on sait depuis longtemps qu'on a été battu ou au contraire qu'on va gagner.
Alors tu as mis quelle note ?
Moi je dirais, alors j'hésite entre 7 et 8 sur 10. Disons que pour le moment je mettrais 8. Après peut-être effectivement c'est un jeu qui ne vieillira peut-être pas. Ouais. On le gardera 3 ans quoi.
Et alors dans ce contexte, parce que ce qui est intéressant de parler d'expérience aussi, donc dans ton contexte qui est le même que le mien,
oui.
De parents,
ouais, de parents, ouais, et de parents enfants, en plus, ouais.
Donc voilà, entre 10 et 15 ans, 17 ans. Est-ce que tu as un conseil sur ce type de jeu qu'on peut faire en famille ?
Qu'on peut faire en famille dans ce genre, pas trop long mais pas trop court, ben, il y a Photosynthesis, qui était pas mal. Il y a un jeu que je n'ai pas testé, mais j'ai vu des vidéos et je pense que ça va devenir un classique dans le jeu familial et pas que, c'est Santorini.
C'est déjà un classique.
C'est déjà un classique. Et on le trouve déjà plus en magasin.
Il n'est pas sorti.
Si, il est sorti.
Il est sorti en rupture de stock.
Il a été édité à 3000 exemplaires.
Mais il sort zéro boîte,
il sort moins de boîtes que ce qu'il prévend.
C'est une technique là, depuis quelques années. Ils sous-éditent les jeux et ils sont épuisés en deux semaines.
Un grand débat du jeu de société actuel.
Ouais. Donc Santorini a été épuisé très rapidement et vu les critiques, tout le monde le voulait. Et maintenant, ça devient impossible de l'avoir quasiment, sauf d'occasion, si on est patient. Et les mécaniques ont l'air vraiment intéressantes.
Ok, voilà. Bah moi, juste pour mon expérience, les trucs qui marchent très bien et qui parfois m'ont étonné avec des petits et plus grands, c'est les Aventuriers du Rail. Et
un gros classique, là, pour nous.
Ouais, un gros classique, mais je trouve que ça marche toujours. Même, ouais. Je suis super étonné que mon plus petit, à 9 ans, capte entièrement le jeu, quoi. Les mécaniques du jeu. Quoi.
Nous, on a rendu le mien, le nôtre, après que le petit, justement, au bout d'une heure de partie, a tout envoyé balader sans faire exprès.
Donc, il manquait 200 pièces. Oui. On a tout vendu. Il n'y avait plus que le plateau, de toute façon, donc on a tout vendu.
Bon, ok, merci beaucoup.
Tu vas vite, moi j'en ai des jeux aussi.
Tour de table, ouais, allons-y.
En fait, un que je n'ai pas testé encore, mais que tu vas pouvoir tester bientôt aussi, Glenn, que je viens d'acheter, qui s'appelle Welcome.
Et voilà, faut pas dire de vrai prénom, merde.
Son identité,
de 1 à 100 joueurs. Ouais, Tout le monde joue avec le même jeu, donc tu peux rajouter des joueurs. Tu peux rajouter des joueurs, et je pense qu'il est assez accessible, et assez accessible, assez rigolo. Donc je pense que tu seras content de le découvrir. Et,
Un nom, t'as un nom?
Welcome.
Ah, Welcome.
Il s'appelle Welcome.
Okay. Ah, ça sera presque dans ce qu'on attend peut-être.
Ah, donc c'est une maison de retraite bilingue.
Toi, Guillaume, tu joues toi, Guillaume?
Ouais, complètement. Je joue, enfin j'aime beaucoup ça. Après, j'ai pas le loisir de beaucoup jouer. Quand on préparait l'émission, j'ai arrêté pas de parler de...
Duel
que j'ai testé il y a pas trop longtemps et je connaissais le jeu d'origine et j'ai beaucoup aimé sa variante Duel.
C'est cool. Deux mauvais retours de Seven Wonders Duel.
C'est vrai.
Non, voilà, après effectivement dans ce... alors je ne suis pas dans le cas de figure où je joue avec du coup des ados, des enfants, donc j'aurais du mal à conseiller ça, mais des ados ou des enfants, ouais, avec les jeux qui vont avec, du coup. Non, après j'ai des super bons souvenirs sur du Small World, mais c'est du gros classique.
Ouais, ok, non, mais ça s'entend.
Et Pedro?
Moi je joue. Oh.
Vas-y, tu fais pas l'animateur.
Je joue à très peu de jeux de société et je vais du coup garder ma petite anecdote proposition pour qu'est-ce qu'on attend.
Et ouais, d'ailleurs, à ce sujet, hein, Pedro le souligne, c'est marrant, si vous allez sur kifim.fr, vous pouvez retrouver tous nos profils. Et vous voyez les courbes de progression comme sur les CV d'aujourd'hui, hein, pour savoir si on est plutôt fan de ciné, de séries, de jeux, de livres. Et si ça reflétait vraiment la réalité, finalement, hein, c'est calculé en pourcentage de chaque fois qu'on lit des bouquins, qu'on joue à des jeux, et qu'on regarde des séries ou des trucs comme ça et qu'on vous note ça sur le site, et ben ça définit un peu notre portrait robot. Quoi.
Et voilà. Donc ça correspond parfaitement parce que je suis à zéro de jeux de société.
Ok.
Je pour toi.
Et ben moi en fait depuis le dernier épisode de Kiffin, zéro. Non, j'ai pas joué, donc du coup je reste sur les jeux.
Oh, c'est triste. Pas joué.
C'est triste. Que veux-tu? Mais toujours avec Oscar.
Ok, bah écoutez, avant d'écouter notre hôte et co-créateur de Kiffin.fr. On va revenir avec l'ami Pedro qui a droit à une double casquette aujourd'hui parce qu'il va nous présenter un livre Nota Bene, les pires batailles de l'histoire. Pedro, de quoi s'agit-il?
Alors,
c'est quoi comme titre?
Oui, c'est ça va. Alors moi, c'est l'édition poche que j'ai qui était sortie dans une édition originale un peu plus grande et plus jolie.
Ah, c'est la couverture n'était pas la même.
Non. Ça c'est la nouvelle édition poche, un peu moins chère. Comment? Alors, je vous parlais d'un youtubeur à la base. Alors non, ce n'est pas les tutos maquillage de
Koudidi
de Enjoy Phoenix ou n'importe quoi, ou les productions d'un certain Norman ou un certain Cyprien.
Ils sont les mecs qui n'ont déjà plus aucune référence chez les youtubeurs. Moi j'ai un ado de 16 ans.
C'est vrai, les mecs ils ont 40 ans, tu sais, aujourd'hui.
Les mecs des youtubeurs que eux ils regardent là, mais t'as jamais entendu parler de
ah,
eux.
Bah oui,
Et par ils sont 25, tu sais, quand tu vas au Geek Days là, ils ont des petites loges machin. J'ai regardé toutes les photos tous les jours.
Julien,
pas entendu.
Julien, il a vu tout YouTube deux fois.
Je regarde beaucoup quand même, mais je pense pas les mêmes choses.
On parle des vrais youtubeurs. Voilà.
Ouais. Un youtubeur dont Monsieur Lours serait un peu jaloux de sa barbe,
ouais,
quand même, puisqu'il y a combat.
Et superbe coiffure viking aussi maintenant.
Comment donc, c'est Nota Bene qui sévit sur YouTube depuis, je pense, déjà bien 2-3 ans minimum, et qui s'est lancé en fait dans des vidéos sur l'histoire. Qui nous raconte un peu des sujets un peu précis sur l'histoire, sans être saoulant, avec un peu d'humour, sur des sujets vraiment divers. Ça va aller de la préhistoire aux années 60, on va dire, peut-être le plus haut qu'il ait fait. C'est assez intéressant.
Moi, s'il fallait réviser, je choisirais les années 60.
Ouais, alors il y a très peu. Je prends très large parce qu'il y a, je pense, aucune vidéo sur la préhistoire, mais d'être les Romains ou les Grecs le plus anciens.
En
tout cas, c'est super intéressant. Il fait des très bonnes vidéos et donc il a édité un bouquin à côté, qui n'est pas une redite de ses vidéos, mais en fait il a pioché dans l'histoire les 15 pires batailles. Toutes civilisations confondues, que ce soit des Français, des Japonais, des Américains, pendant la Seconde Guerre, chez les Grecs, chez les Romains. Il me semble que la plus vieille, c'est la bataille dont est tirée à Olympie, avec le célèbre marathon, les 42 kilomètres, du soldat qui en est mort. Et c'est la dernière, il me semble, la plus récente, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. des histoires qu'il a piochées. C'est vraiment intéressant, il explique assez bien, il rajoute des petites touches d'humour en se moquant généralement très brièvement mais assez d'une belle manière du mec qui va mourir en tombant de son cheval ou écrasé dans un puits ou une connerie comme ça, enfin il y a toujours des morts un peu particulières. Et la chose qui m'a le plus intéressé, c'est qu'il a pris, on va dire, 15 batailles, 15 périodes de l'histoire, et à chaque fois qu'il finit comment l'explication ou l'histoire sur la bataille, il va donner des petites indications sur ce qui se passe dans le monde aussi à cette époque. Par exemple, il y a une des batailles qu'on a perdu pendant la deuxième croisade entre les Français et les musulmans. Et juste à la fin de cette histoire, il va nous parler de ce qui s'est passé en même temps chez les Coréens, chez les Mongols, et ça nous permet en fait d'avoir un aperçu du monde à cette époque-là, sans forcément rentrer dans les détails, mais ça te permet d'avoir un aperçu. Et t'arrives à faire tes liens, tu te rends compte que t'as l'impression que, je sais pas moi, l'empire de Genghis Khan est complètement décorrélé de l'époque des croisades, et en fait, pas forcément, ça peut être... bon, au niveau de l'histoire, j'ai pris deux choses différentes, mais... Il y a des ponts, il y a des liens, et ça permet de se faire un planisphère mental, en fait, en quelque sorte.
Ah, j'adore cette idée, là. Tu m'as convaincu sur cette idée, parce que je me répète souvent que, ouais, je connais le Far West, ouais, je connais la Rome antique, machin, mais très souvent, je suis visuellement incapable de dire qu'est-ce qui se passait à l'époque du Far West en France, tu vois. Je suis obligé de faire des calculs, alors, Far West, c'était l'année, machin. Et sinon, c'est pas du tout naturel, quoi. Donc si cet effort, il est fait là-dedans, c'est intéressant.
Alors, ça, à chaque fois, le petit rapport sur le monde fait 3-4 pages, maxi, en plus. C'est vraiment pas rentré dans les détails. Mais il va rajouter 10 petites allusions aux autres civilisations, en fait, sur ces 3-4 pages. Et ça permet vraiment de faire un lien, et plutôt que juste une trame historique d'une bataille à une autre, on a une sorte d'épopée entre les pires batailles et au passage les pires morts, parce qu'il y en a certains qui sont morts d'une façon un peu bête, mais vraiment et c'est vraiment bien fait, c'est bien expliqué, et qu'on soit fan d'histoire, j'ai lu beaucoup de bouquins d'histoire, j'ai appris des choses en plus, et je pense aussi que ça peut être un vrai plus pour des collégiens ou des lycéens. Que ce soit dans les révisions ou même en plus, bah pour donner goût à la lecture et à l'histoire.
Parce que c'est pas romancé. Hein.
C'est pas romancé. Okay. C'est vraiment la vraie histoire. Mais c'est raconté. C'est pas chiant. Parce qu'il y a certains bouquins d'histoire qui sont très lourds, très précis dans les détails, et du coup bah, tu laisses tomber quoi. 50 pages sur une armure de chevalier.
Combien ça fait de pages ça ?
Je vais te dire tout de suite. J'ai dans les mains un petit peu moins de 300 pages.
Okay.
Donc pour 15 batailles.
Ça s'appelle Nota Bene. Et tu Nota lui as mis Bene. La note de...
Si je dis pas de bêtises, j'ai dû mettre 8 sur 10. Parce que ouais, c'est sympa, ça se lit bien. Pas forcément lire tout d'une traite, ça se picore. Tu peux t'arrêter, bah, comme c'est pas corrélé les batailles entre elles. Carrément. Tu peux t'arrêter, reprendre. Non. C'est intéressant.
Moi j'ai une question, parce que t'as bien dit que ça reprenait pas les vidéos de la chaîne YouTube.
Ouais.
Ce dont je suis pas sûr, parce que pour avoir vu tous les épisodes de sa chaîne YouTube, il dit lui-même qu'il en reprend certaines.
Ouais.
Donc si t'as tout vu, je sais pas à quel point t'es fan de sa chaîne.
Si, je regarde tout. Il y a des liens.
Et on n'est pas venu là pour souffrir au tiers.
Non, parce que, en fait, la question sous-jacente sur ce sujet-là, c'est par exemple le bouquin de Bruce Vernon
Ben Abram. Je crois que c'est Bruce Banner.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Bon, non, Bruce Banner de y penser.
Ouais, pour avoir donc lu son bouquin que Julien m'a prêté d'ailleurs. Enfin, moi, c'est carrément ce qui m'a arrêté dans le bouquin. J'ai lu 100 pages, j'ai fait « Ok, j'ai déjà tout vu en vidéo », et ça m'a tapé sur les nerfs.
J'ai un exemple parfait. Est-ce qu'il a fait une vidéo sur la guerre Corée-Japon ?
Attends, je te dis.
Je vais te dire.
Par contre, ça ne pourrait en aucun cas corroborer quand même le truc. C'est-à-dire qu'entre ce n'est pas une redite de truc et il y a une des histoires qui n'est pas redite, c'est quand même pas pareil.
Non, mais en fait, c'est un exemple. Il y a des trucs, il en a parlé. Mais par exemple,
qu'il a fait des vidéos dont le sujet était les pires batailles de l'histoire.
Oui, c'est les
pires. Celle-là, il y en a qu'une, mais il y a les pires morts de l'histoire.
Oui, il y a les pires morts. Elles sont pas forcément. Il y a dans les pires, dans la vidéo, il doit y avoir un ou deux exemples de ce livre-là. Il y a quelques petites pioches.
Je veux quand même lire le livre.
Oui, complètement.
Je crois même qu'il a fait une vidéo, le mec. de lui en train de lire son propre bouquin illustré en vidéo.
Je rebondis aussi parce que dans Tournage Général, vous avez parlé de ce monsieur. Ouais. Je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier épisode. Notamment parce qu'il a fait une série qui s'appelle History Creed avec Arte Creative sur l'histoire à travers le jeu vidéo. Et qui est vraiment, vraiment pas mal. C'est une web série. Sur Arte, je sais pas si on peut la trouver sur YouTube.
En replay
sur Arte, il y a un site. Bah, Arte fait toujours ça très bien. Sites thématiques.
Et je rebondis parce que sur sa chaîne YouTube, il fait des vidéos où il compare l'histoire par rapport à un film, genre Braveheart ou ce genre de truc. Et ces vidéos-là, en plus, pour si vous êtes un peu cinéphile, elles sont géniales. Ouais. Vous voyez le dernier samouraï, vous voyez Braveheart avec un œil un peu historique, et ça vous permet un peu de.
Alors, spoiler, si vous aimez Braveheart, ne regardez pas sa vidéo.
Ouais, alors, de façon générale, si vous aimez le film dont il va parler, ne regardez pas le film, ne regardez pas la vidéo.
Est-ce qu'on peut aimer Braveheart ?
Et alors, dernier petit point sur ce monsieur, parce que c'est le bouquin aussi, ce monsieur. Il travaille beaucoup avec le CNC, si je dis pas de bêtises. Et il fait pas mal de vidéos au Louvre ou dans certains musées. Et ça complète bien l'ensemble, en fait. Il parle de l'histoire, de choses particulières. Il va parler de l'histoire dans les jeux vidéo ou dans les médias qu'on peut avoir. Et il va aussi travailler avec les institutions plus ou moins en place, comme en France, et dont les musées. Et tout l'ensemble fait vraiment une œuvre intéressante. Donc, lisez le bouquin, allez regarder ça.
Nota bene. Guillaume, notre invité là, de ce soir, notre invité, Monsieur l'Ours.
Notre invité l'Ours.
Non, mais je voulais juste revenir sur toi un petit peu pour l'actu. Donc, on a dit.
Il y a Guillaume qui est l'hôte et il y a Guillaume qui est un autre.
Voilà. Tu officiais donc dans le podcast Tournée Générale, qui parle culture pop.
Ouais.
Qui se tournait jusqu'à présent dans des bistrots rennais, c'était bien cool, avec une ambiance bien sympa.
Pourquoi tu parles passé?
Parce qu'ils sont en terrasse.
Révélation. Voilà. Non, effectivement, c'est le concept du podcast.
Non, on sait jamais, ça pourrait changer. Et puis, plus récemment, tu es lancé peut-être dans un.
Ah, c'est ça, un jour.
Voilà, un nouveau podcast encore. Tu nous en parles un petit peu, et puis ensuite, on fera la transition avec ATLZA.
Alors attends, parce que avant que tu nous parles de ton autre podcast, il faut aussi quand même que. Parce qu'on avait un peu teasé dans le podcast précédent. Sur le festival Spoilers, on avait annoncé la venue de Guillaume qui venait nous parler de Spoilers, et je pense que même si malheureusement tu peux pas nous en dire autant que ce qu'on aurait aimé, puisque ça n'a pas tellement lieu d'être, on veut bien que tu nous en parles quand même.
Ouais, je vais peut-être même plus vous parler de ça que d'autres choses, effectivement, même si le côté podcast m'intéresse énormément, il y avait effectivement dans les tuyaux la création à Rennes d'un festival dédié à la série fantastique et science-fiction.
T'as encore parlé au passé.
Il y avait, parce que pour l'instant le festival est officiellement reporté à une date indéterminée, puisque c'est un festival qui est fait en collaboration avec l'université de Rennes 2, qui donc actuellement est bloqué suite du coup à la loi Vidal. C'est Spoilers, c'est un festival qu'on a co-créé avec notamment l'université de Rennes 2, comme je viens de le dire, mais aussi Courmétrange, qui est un festival un petit peu historique sur le court-métrage fantastique et insolite à Rennes, qui existe déjà maintenant depuis 14 ans. Dont les affiches sont régulièrement assez superbes. Fait par
À toi, Jean-Philippe Debrois, si tu nous écoutes.
Un kérosène, et donc le but de Spoilers, c'est de pouvoir d'une part proposer de la série fantastique et science-fiction dans une ambiance au cinéma, donc dans une ambiance plus collective, on va dire, et surtout inviter les gens qui sont derrière la création de ces séries-là, donc les scénaristes, les gens à la production. Les réalisateurs, évidemment, les acteurs, etc. Donc on avait notamment pu échanger avec François Descraques et David Mourier pour cette première édition. J'espère qu'ils nous feront le plaisir et l'honneur de revenir quand on recalera les dates, puisque du coup ça devait se passer
François Descraques, le frangin Descraques de Raphaël Descraques, le youtubeur.
Tout à fait, ouais. François Descraques qui est à l'origine du Visiteur du Futur, notamment. Entre autres choses. Et on est super contents, en fait. C'est clairement un projet de passionné à la base, et on est super contents d'avancer sur cette création-là. On espère très prochainement pouvoir annoncer des dates, j'espère fin 2018. On va voir si c'est vraiment possible. Sinon, peut-être début 2019. Mais quoi qu'il en soit, on espère que on en fera un rendez-vous régulier à Rennes. Puis parce qu'il faut avoir un petit peu d'ambition. Moi, j'ai toujours dans un petit coin de ma tête les premières éditions du Sunfest où j'allais à Beaulieu dans un gymnase voir des gens qui geekaient. Et la semaine dernière, ça a rameuté plus de, je crois, 4000 personnes aux Libertés à Rennes. Donc voilà, y a, je pense qu'il y a un public pour ça. Et, et quand on voit voilà, Cannes Série ou Série Mania qui un peu se tire la bourre cette année notamment, c'est un sujet porteur. Quoi.
Et pour continuer sur le sujet de spoilers, on espère d'autant plus que vous allez continuer.
Complètement.
Parce qu'on avait quand même, je pense, je peux en parler, ouais, hein,
bien sûr.
On avait quand même pour projet que qui filme autant que faire se peut épaule spoilers et vice versa. Donc voilà.
Bah, enfin, justement,
nous communiquer autour de spoilers, amener si on peut du contenu sur les séries, sur les personnes qui sont présentes à spoilers. Donc voilà, on espère qu'on pourra accompagner spoilers.
Tu fais bien de le rappeler.
Et l'avantage de votre retard, c'est qu'on aura du temps pour préparer tout ça maintenant. Ça.
Un Twitter pour suivre l'actualité.
Eh bien, tout à fait. On est sur Twitter @spoilers_Rennes. Je pense que c'est _Rennes. Donc le tiré du bas et sur Facebook spoilers festival ou spoilers Rennes, ouais, _.
On vous remettra le lien vers le Twitter dans l'article qui accompagnera le podcast. Hein.
Ouais, mais de toute façon effectivement, enfin je plussois ce que disait Guillaume sur la collaboration avec Kifim parce que la grosse force du site c'est du coup de proposer un contenu hyper riche pour tout ce qui est notamment séries fantastiques, les acteurs, les équipes techniques. Donc l'idée a vite émergé de créer une synergie entre ce qu'on pouvait communiquer et puis la matière qu'il y avait déjà sur le site. Donc ouais.
Super.
Les acteurs rennais s'associent.
Voilà, le mot-clé dans ta dernière phrase, c'est aussi cette idée de... Il y a des projets qui sont, en l'occurrence, qui sont rennais. Voilà, travaillons, on est dans le même coin, on fait des choses qui sont proches, on peut... Travaillons ensemble plutôt que chacun dans notre coin. Quoi. Mm-hmm. Et ce qui, je pense, je te pique ta réplique, mais va faire une bonne transition avec la partie suivante.
La partie suivante qui va être les nouveautés du site Kifim, qui donc a été entièrement repensé, rénové. Il est maintenant fonctionnel, opérationnel. C'est un peu le Star Wars 10.
Ouais, c'est ça.
C'est le Star Wars 10 des sites rennais. Et donc,
Star Wars 10.
Guillaume a ATLZA sur Kifim. Va nous en parler.
Ouais, donc voilà, alors déjà pour conclure un peu ce podcast, mais chaque podcast on essaiera de vous faire ce petit point voilà, comme on l'a déjà dit, vous l'avez compris, Kifim c'est avant tout un site. Donc on profite aussi du podcast pour vous raconter un peu ce qui se passe dessus. Avec l'épisode 1, on a du bol, est arrivé juste il y a très peu de temps la nouvelle version de Kifim. Très justement nommé la V8, parce que c'est pas juste la nouvelle version, c'est
parce
la
qu'elle V8. Ronronne comme une anglaise.
Non, car Kifim a 7 ans, Kifim est pas tout jeune. Hein. Donc voilà, lancé en 2011.
Donc il commence à parler.
Ouais, il commence à parler, tu vois, via son podcast. Donc voilà, donc une refonte, une refonte qui est pas tellement qui est une refonte mais qui n'est pas une révolution en soi, parce que c'est pas le but de cette refonte là. C'est une refonte qui avait deux axes. C'est une refonte graphique avant tout, mais c'est pas un big bang graphique.
Quand tu dis ça, t'as besoin de gardienne de la paix avant tout.
Donc c'est pas un big bang graphique. On a voulu être une évolution, une modernisation en douceur de l'interface, qui avait quelques objectifs que j'espère atteints, qui était d'amener une homepage plus orientée sur le site en lui-même. On avait dans l'ancienne version de Kifim une home qui présentait les meilleurs films, les meilleures séries, un petit peu tous les univers, qui rendait le truc un peu pas lisible. Donc là, Je voulais une home plus centrée Kifim, qui présente voilà ce que vous allez pouvoir faire avec le site. Certes, c'est différents univers, mais pourquoi différents univers? Voilà, je peux indiquer que j'ai joué à un jeu, je peux faire une liste des films que j'ai envie de voir, etc. Tout ça est un peu mieux présenté dans la home, donc c'était un des axes. Il y avait une autre volonté qui était un peu un besoin, c'est que Kifim, quand il est né il y a 7 ans, ne présentait que les films, d'où son nom, hein. Kifim, c'est quel film en créole. Et maintenant, au fil des années, sont venus se greffer dans un premier temps les séries, puis les livres et enfin les jeux de société. Donc une refonte graphique qui a amené une séparation visuelle dans les univers avec une couleur dédiée à chaque univers. En gros, voilà, la page elle a une dominante rouge, vous savez que vous êtes dans les films, elle a une dominante jaune, vous êtes plutôt dans les jeux de société. Et cette dominante suit chaque univers.
Et c'était une dominante noire, elle était dans la merde. C'est pas énorme.
Ouais. Ok, on y aller. Et elle amène également des landing pages, donc qui reprennent justement chaque univers pour amener les films à voir en ce moment, les dernières critiques des membres sur les films, sur les séries. Tout ça est un peu mieux séparé. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect un peu refonte design visible du grand public. Un autre axe qui était important d'amener dans cette refonte-là, c'est tout simplement une meilleure expérience utilisateur, faciliter un peu la vie de l'utilisateur sur Kifim. Et assez connement, je dirais, ça passait par une navigation vraiment aisée, un menu accessible, et notamment sur mobile. Elle avait cette volonté-là aussi toujours d'améliorer l'expérience utilisateur sur mobile dans Kifim. Donc voilà, dernier point pour l'utilisateur qu'amène cette nouvelle version, c'est un accès plus facile à tout ce qui est interaction avec un film, avec une série. Donc je l'ai vu, je le note, je l'ajoute à une liste. Hop, c'était un petit peu masqué auparavant, il fallait remettre ça en avant. Et donc voilà, il y avait besoin de toutes ces petites évolutions-là. Donc pas de grosses nouvelles fonctionnalités, pas de Big Bang, mais il y avait besoin de mieux amener tout ça. Le projet qui à la base partait en fait juste sur la nouvelle navigation utilisateur a amené un peu tout le reste, et du coup a entraîné le deuxième axe de cette refonte qui est une refonte technique. Faut savoir que pour arriver à cette refonte graphique, en fait, le parti ça a été de se dire, en fait, on va pas tellement faire une nouvelle version avec plein de nouvelles fonctionnalités, mais on va s'offrir le luxe de pouvoir le faire à l'avenir aisément. Et du coup, il y a tout un changement technologique qui est venu derrière le site. Il y a à peu près 50% du site qui a été entièrement réécrit. Alors 100% des pages au niveau design ont été refaites, mais 50% du code à peu près a bougé, ce qui est quand même...
C'est une sorte de Robocop du...
Ce qui est assez énorme, hein, c'est assez conséquent le truc sur Kifim. Et du coup, avec aussi quelques objectifs, donc d'avoir un code moderne, évolutif, qui va nous permettre d'amener des nouvelles fonctionnalités à l'avenir. On comptera sur le retour de nos utilisateurs pour nous indiquer un peu quels sont les plus attendus. Mais aussi un objectif de rendre le site beaucoup plus rapide, encore une fois, pour de façon générale pour le web, mais aussi pour le mobile, que l'expérience utilisateur soit meilleure. Donc voilà, ça c'est une grosse nouveauté. Donc pour ceux qui étaient là avant, c'est pas un big bang, c'est une modernisation en douceur, je disais. Pour les autres, c'est la porte ouverte à plein de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans la to-do, dans la to-do? Alors voilà, on sait pas quand ça va arriver un petit peu au fur et à mesure, mais dans les projets, il y a une grosse modernisation de la recherche, on a bien bien besoin. Alors ça, c'est un chantier énorme et complexe, mais j'espère qu'on pourra voir ça dans les semaines qui viennent.
Alors, c'est un Tipeee.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et non, mais il y a certains utilisateurs qui ont levé des demandes intéressantes qui, je pense, verront le jour pareil dans les semaines à venir, comme des listes multi-univers, le fait de pouvoir critiquer en mettant une petite bail spoiler pour qu'on puisse lire des critiques sans lire les spoilers. Bon, il y a différentes petites choses comme ça. Que cette nouvelle critique basée sur des technos du coup plus modernes vont permettre d'arriver maintenant. Donc on a pas mal de choses dans les cartons, la liste d'idées est pleine, mais on est preneur de tous les retours. Et si un jour vous venez sur Kifim et vous dites juste il manque un truc, on est vraiment à l'écoute sur ce genre de choses, et c'est comme ça qu'on fera avancer le projet. Donc voilà.
Écoutez, je vous propose, si le temps le permet, de se faire un dernier tour de table où on représente les pseudos pour que les gens puissent nous retrouver sur le site. Et on en profite pour peut-être balancer ce petit truc de qu'est-ce qu'on attend. Alors je vais commencer, si vous voulez, j'ouvre la marche. Donc moi, vous me trouverez sur le pseudo Dr Matt Geek sur kifilm.fr. Mon truc, c'est un peu la dystopie, la science-fiction, c'est un peu ce que je préfère.
Ouais, moi, c'est l'Uchronie.
Et dans les trucs que j'attends, rien à voir, mais la dernière bande-annonce m'a tellement saucé, donc j'ai un adolescent de 17 ans, m'a tellement saucé, c'est le biopic de Freddie Mercury. J'espère que je...
Non.
Ah si, trop.
Non. Je pars.
Et bah écoute,
Rami Malek. Rami Malek.
C'est ça pour moi, c'est aussi risqué que Trainspotting. Alors, je veux dire, tu touches à un truc qui est culte. Et
je pense que c'est...
Et l'attente va être tellement forte que tu ne peux être que déçu. Quoi.
Alors, je pense que c'est tout le but de cette rubrique. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est, je l'attends vraiment pour ça. C'est-à-dire que ça sort, soit ça se pète la gueule. Alors aucune idée,
mais là, septembre,
est arrivé. Mais soit ça se pète la gueule, soit c'est hyper déceptique, soit c'est magnifique. Et donc j'ai hâte de voir le truc parce qu'il paraît.
Mais ce sera pas entre les deux, ce sera réussi exactement. Ou complètement foiré.
Mais pourquoi Trainspotting 2, hein, on est dans des sujets. Et ben non, pas du tout. Je suis désolé, mais pour un fan de Trainspotting,
les gens ont plutôt apprécié.
En fait, c'est un vrai vieillissement des personnages et tout, c'est assez réussi.
Joke.
Qu'est-ce que j'attends moi?
Alors Juke sur Kifim.
Alors Juke sur Kifim, J-U-K-E, voilà. Il y a deux choses que j'attends. Alors une, bon, je sais qu'elle va sortir, ça va être la suite de Peaky Blinders, qui est moi ma série fétiche des dernières années.
Ce sera la saison
3 prochaines saisons qui arrivent.
3 prochaines saisons, c'est dans la... Ce sera la saison 5.
Donc ça veut dire que... après 4 saisons, on est toujours en attente de celle d'après.
Ouais, mais en fait, c'est une série qui grossit, qui a de plus en plus d'audience, qui a de plus en plus de reconnaissance, et c'est mérité parce que la réal, la bande son, enfin les acteurs, tout est génial dans cette série. Quoi.
C'est vrai.
Elle a des rythmes des fois qui pêchent un peu, mais tout est génial.
Ouais, et la deuxième chose, attaché à la famille maintenant.
Et la deuxième chose que j'attends, alors là par contre, c'est beaucoup plus utopique parce que c'est une espèce de d'arlésienne dans le monde de la série, c'est la série qui... Fondation.
Ah.
Fondation, Asimov est un de mes héros, Fondation est un de mes fétiches en bouquin, et j'attends depuis des années qu'il y ait une série qui soit faite. C'est passé passé dans les mains de tout le monde.
Il y a des rumeurs. Hein.
Il y a des rumeurs.
Alors, c'est une dernière rumeur, c'est Amazon qui a racheté les droits et qui est prêt à la faire. Donc, j'attends.
Il y a des moyens, quoi.
J'ai un peu d'espoir parce que là, pour le coup, il y a des moyens et du coup, j'ai envie
de la... Ça me fait penser à la série Electric Sheep de Channel 4 sur les écrits du coup de Philippe K. Dick, qui était hyper.
Electric Dreams.
Non, il y a deux choses.
La série, c'est Electric Dreams.
Oui, mais celle de Channel 4, c'est pas Electric Dreams.
Ah, ouais. Bah, moi, je parle de Amazon Prime. C'est Electric Dreams.
En tout cas, c'est
sur les nouvelles de Philippe Kennedy.
Ouais, c'est ça, avec Brian Cranston.
Qui est très inégal.
Ouais, c'est ça.
Très inégal.
On sent le côté prod un peu fauché, quoi.
Un ou deux épisodes, voire qui cassent les baraques, putain.
Fondation dure depuis tellement longtemps que si Amazon le fait, j'espère qu'ils mettront les moyens parce que c'est pareil, ça va être, comme on disait tout à l'heure sur le film sur Freddie Mercury, elle va être tellement attendue cette série par les fans du bouquin. Que le moindre raté, ce sera descendu. Quoi.
Et c'est ambitieux.
Ambitieux.
Pedro.
Le problème, ça va être les histoires de budget. Ils ont déjà des gros soucis de budget. Ils ont mis tellement Seigneur des Anneaux, etc. Et ils ont mis tellement dans.
C'est pas impossible qu'elle repasse dans les mains de quelqu'un d'autre. Je crois que les droits sont passés de main en main depuis 3 ou 4 fois.
Mais sauf que Laurent Baffy a mis une option sur le truc.
Cyril Hanouna.
Moi rapidement, deux choses. Une, j'en ai parlé dans les news, mais ça va être Disenchantment, le retour de Matt Groening sur Netflix. Vous parliez de moi dans l'épisode 0, comme quoi j'étais un grand fan de séries animées pour adultes, avec BoJack Horseman ou Big Mouth, dont tu parlais de la principale. Bon, moi j'adore tout ça. J'en attends beaucoup. J'attends de voir. L'autre point, je rebondis, c'est sur les jeux de société. Je ne suis pas un grand joueur, mais là je vais défendre ma chapelle. Moi je viens du pays de Bruxelles, c'est à côté de Rennes, mais c'est pas à Rennes. Et il y a un jeu qui sort tout l'univers de Bruxelles, un jeu de société.
Un jeu qui sort SORT, bien sûr.
Qui est actuellement en crowdfunding, qui est un peu poussé par la communauté tout autour de Brocéliande, et ça sera un peu sur des enquêtes et sur le monde de Brocéliande.
Alors, si on veut backer, comment ça s'appelle?
Eh ben, malheureusement.
Donc, un jeu de société sur Brocéliande qu'on trouve sur KissKiss.
C'est sur Ulule, je crois. Ulule. On le partagera sur Twitter et sur Facebook. Il faut pas que j'oublie.
Ok, Google, peux-tu me trouver un jeu en crowdfunding sur Brocéliande?
Et ça a l'air vraiment sympa. Alors, moi, je pourrais pas en parler en tant que joueur expert ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas du
et
tout.
On l'attend, quoi.
Mais moi, ça me tombe bien. Puis, bah, c'est pour une fois, fait partie un peu de un jeu un peu local. Ça a l'air assez intéressant et ça a l'air porté très famille.
Bien.
Donc, voilà.
Génial. Monsieur Lourdes, est-ce que tu as un bail à nous dire ?
Le roi des Korrigans.
Ah, le roi des Korrigans. Merci pour l'intervention de ATLZA.
J'ai réussi à le dire nickel maintenant.
Non, c'est parce que j'ai écrit les lettres en phonétique là, carrément.
Mais en fait, c'est comme ça que ça se prononce parce que sinon vous pouvez essayer, c'est le début d'Atlantique avec Zart, c'est facile. Atlza.
Atlza. Avec nous, comme au Garden. Atlza.
Mais les lecteurs de GoPrat me comprennent.
Monsieur Lours, est-ce que tu attends quelque chose ?
Oui, tout à fait. Alors, je suis un peu comme pour du coup Fondation, ça va pas être un truc qu'on va pouvoir noter sur Kifim tout de suite, clairement. Mais je suis extrêmement impatient.
Je sais.
Vas-y.
C'est le nouveau Rambo.
Non, c'est la future série live Star Wars. Voilà, c'est un gros fan, enfin attente de fans quoi. Mais t'es passé à côté de cette news.
Carrément.
Et ben fin 2019, Disney va lancer sa propre plateforme de streaming pour concurrencer Netflix et
faire de lance de
du coup cette nouvelle plateforme sera la création d'une série de live Star Wars
ça
qui sera
chouronnée par prête pour faire Maître Yoda
complètement ouais.
c'est vraiment
c'est des pompes et tout ouais. Et du coup cette chouronnée par Jon Favreau qui a quand même sur CV le fait d'avoir créé un petit peu le MCU c'est un univers en tout cas qui a lancé la première pierre il l'a pas créé
en plus un mec
c'est la pierre de l'âme.
C'est le réalisateur d'Iron Man. Voilà.
Voilà.
Rien à voir. Donc, et ça va se situer du coup. Bon, là, la période n'est pas extrêmement originale, mais a priori, ça se situera entre l'épisode 3 et l'épisode 4.
Oui, c'est ça.
Donc,
c'est
les 30 ans. Tout début.
Alors, dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre
Non, pardon, est-ce que ça va pas se situer entre l'épisode 6 et l'épisode 7 plutôt ?
Si, c'est ça.
C'est
entre 6 et 7.
Et la qualité, quand même, en termes de lore par rapport à Star Wars sur justement Star Wars Rebels, était quand même assez cool. Malgré que c'était une série plutôt orientée jeunesse, mais plus ça allait et voilà. Donc, je l'attends parce que voilà, aussi bien ça va être nul, mais pour l'instant, j'ai pas de nom, il y a pas de
projet dans les cartons.
Il va sortir. Il y a pas d'acteur, il y a pas de date, hormis peut-être une fin 2019 pour accompagner le lancement de la plateforme de Disney, mais c'est très hypothétique, mais ça va se faire et
vous attendez une série qui n'a pas de nom.
Ouais.
Qui n'a pas de date.
Qui n'a pas de fiche sur Kifim.
Rien, suivez Kifim.fr.
Non, mais voilà, ça, c'est vraiment une attente. C'est un vieux serpent de mer dans la série aussi.
Ouais. Ok, je l'attends aussi maintenant, du coup. Guillaume ?
Ouais, donc moi je vais. Alors, ce que j'attends. Moi j'attends un jeu que j'ai commandé.
Ah oui, c'est bien.
Mais oui,
c'est concret quoi.
Que j'ai commandé, non, mais en fait j'ai fait un truc que j'avais jamais fait jusque-là.
Notez la poste sur Kifim.
Parce que je suis déjà un peu vieux. Non, j'ai backé pour un truc pour la première fois sur Kickstarter. Et donc j'ai backé un jeu de société qui s'appelle Chronicles of Crimes. Qui est un jeu de société qui, donc, d'enquête policière collaboratif. Jusque-là, rien de nouveau. Sauf qu'il mélange réalité virtuelle avec jeu de société. Donc, je me suis un peu craqué, j'ai pris le Big Gros Pledge où il file les lunettes, machin et tout avec. Et donc.
Combien de lunettes ?
Bah, une seule paire en fait, parce qu'en fait, t'es donc une équipe d'enquêteurs qui va donc forcément enquêter sur un crime. Tu vas te rendre compte par exemple que tu dois aller interroger Madame Michou. Et en fait, tu vas. Alors, je vais même pas prendre cet exemple-là, je veux dire, tu vas fouiller par exemple la scène du crime, tu mets tes lunettes, ton téléphone, et donc en fait, tu dois décrire ta scène de crime, t'as un temps qui est donné. Tu dois décrire à tes équipiers qui prennent des notes. Donc, charge à toi de bien décrire, charge à eux de bien noter. Et en fonction de ce que tu apprends, tu peux aller interroger. Donc, t'as une liste comme ça de personnages, comme le docteur, tu vois, comment on appelle ça, le mec qui sait les cadavres, ou tu peux retourner voir un témoin, le réorganiser, fouiller chez lui grâce aux lunettes. Donc, en fait, c'est un peu le next step du jeu vidéo avec du jeu de société qui commence à se mélanger avec des technologies comme la réalité soit augmentée, soit virtuelle.
Surtout qu'on commençait à attendre il est temps qu'elle arrive dans nos quotidiens.
Ça existe déjà, il y a quelques jeux qui avaient tenté le truc, mais là, celui-là, il fait l'unanimité chez les gens qui l'ont testé. Il a fait un carton sur Kickstarter, du coup, en termes de cadeaux, là, de trucs qu'ils ont rajouté derrière, il y a 12 000 scénars et tout. Donc, clairement, mon achat, il est rentabilisé puissance 10.
Si tu le reçois.
Théoriquement, attendu à la fin de l'année, donc c'est ma grosse attente, ce sera mon cadeau de Noël.
Il y avait un article hein, aujourd'hui sur une start-up qui avait rempli ses fonds là, qui avait rempli ce truc et les mecs.
Bon, alors faut savoir que dans le domaine du jeu de société, c'est quelque chose de hyper courant, le lancement d'un jeu de société sur Kickstarter. Ouais. C'est des maisons d'édition qui ont déjà sorti des jeux, qui sont déjà là, qui les proposent sur Kickstarter, donc le risque est relativement minime, on va dire.
Et donc, ça s'appelle
Chronicles of Crimes. Il est déjà sur Kifim.
Chronicles of Crimes, déjà sur Kifim.
Ça, c'est bon.
Christophe, est-ce que tu auras mieux que ça?
Non, ça va être difficile.
J'attends ma paye.
J'attends d'aller dormir. Non, en fait, je suis beaucoup moins en avance que vous sur ce qui va sortir.
Oui, mais on avait dit, on ne juge pas.
Non, mais c'est une critique. C'est parce que je profite de l'instant présent, donc voilà.
on va y aller. Allez, salut les gars.
Non, mais j'ai beaucoup de retard sur pas mal de choses. Enfin, bon, je. pas de blague, Guillaume. Là, je suis en train de finir de lire Sapiens, et c'est marrant parce que quand tu parlais de Nota Bene tout à l'heure, ça faisait penser un petit peu à ça. Ça raconte l'histoire de l'humanité. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la suite aussi, parce qu'il a sorti une suite, je crois, l'année dernière. Ça s'appelle Homo Deus. C'est Homo Deus, et ça parle de ce qu'est en train de devenir l'homme, de l'avenir de l'homme.
Ah, et moi j'avais lu le préquel, c'était Homo Deus Mozart. Il faut
vraiment mettre un terme à ce podcast, il y a beaucoup trop de blagues ce soir.
Sinon, sorti la semaine dernière, donc j'attends de le voir parce que j'ai pas encore le temps de regarder, mais c'est la suite de 13 Reasons Why. Je suis curieux de voir la suite. Ouais.
Alors, moi je suis commencé à être bien avancé. Si t'as, comme moi, t'as bien aimé la première saison, mais pas beaucoup d'attente dans la saison 2.
On va s'arrêter là. J'ai pas envie de spoiler plus que ça.
Mais ok, voilà. Merci beaucoup à tout le monde.
C'était, merci à toi pour l'animation.
Merci. C'était bien cool. Donc, on vous invite à nous retrouver sur quoi?
Facebook.
Facebook. C'est pas encore SoundCloud, c'est ça?
Alors, c'est pas sur SoundCloud, c'est sur.
Bah, si vous nous écoutez, vous le savez.
Enfin, il y aura le lien. Il y aura le player dans l'article sur le blog. Évidemment, sur le blog, sur le blog, site, Twitter.
De toute façon, sur le site kifim.fr, c'est la base. Inscrivez-vous, commentez, participez, échangez avec nous. Et puis, on remercie encore.
Géocities aussi. On est sur Geocities.
On est aussi sur Geocities, voilà, si vous visitez la ville. Et on remercie encore Guillaume du Festival Spoilers et du podcast Tournée Générale d'avoir été avec nous ce soir
pour nous
présenter.
Merci de m'avoir invité, je reviens avec plaisir. Ouais.
On vous retrouve dans à peu près 40 jours pour le numéro 2 avec cette fois un générique. Waouh! Ça va être un gros truc de fou. Et voilà, et donc merci à tous, et voilà, ciao!
Merci à vous, bonne soirée!